There's a jungle out there, you know. Baby, let your love run wild, wild, wild. You're just an animal.
Et c'est à moi. Comment ça va vous?
Il est tôt, hein?
Ouais, 8h30.
8h33, maintenant lancé le stream à 8h30. Petite musique, bien. Comme j'étais même en avance au studio, j'ai eu l'occasion de chercher des nouveaux titres. Attends, je suis un peu. Le micro est un peu. Voilà. Un peu haut. Non, il est 2h30 du matin. Tu nous regardes d'où, Mr. Feller officiel? Asie? Amérique? Je passe ici avant d'aller dormir. Bonne nuit en tout cas. J'ai vu certains sortaient de nuits blanches, de sorties, de fêtes ou de jeux vidéo. Voilà. Et bienvenue à tous. Voilà. Et bienvenue à ceux qui commencent leur journée aussi. J'ai une voix un peu monocorde, un peu robotique. C'est un petit traitement que je prends contre la toux qui marche très très bien. Je toussais comme un furieux depuis des semaines. C'était un peu gênant, je trouve, en stream, y compris. Dans les émissions à la télé, voilà. Et du coup, j'ai trouvé un super truc, un petit corticoïde local en spray, plus des petites gélules à base de plantes. Et en fait, la toux est terminée. C'est super, c'est top parce que du coup, je dors mieux. Et c'est quand même plus agréable pour vous aussi. Et voilà, j'ai juste cette voix un peu monocorde comme ça. Mais ça, c'est l'effet du corticoïde local sur mes cordes vocales. J'ai l'habitude. Ça veut dire que le traitement marche. Puis, je pense que dans quelques jours, j'arrêterai ce petit spray du matin et du soir en voyant ce que devient la toux. Salut. Donc, c'était Montréal, Canada. C'était les Amériques. Okay. Super. La personne qui nous regarde, où il est 2h30 du matin. Comment se passe le sevrage du café? Bien, regarde. Comme le montre ce petit cordon qui dépasse de cette tasse MVP, tout à l'heure MVP à 12h sur ma chaîne, un nouveau numéro d'MVP qui va être particulièrement cool en vrai. Voilà, donc je crois qu'on est à la deuxième semaine sans café, après 35 ans de café, intense, intensif, démesuré, too much, jusqu'à 13 cafés par jour, et puis j'ai fini par un peu m'abîmer les voies digestives à cause de l'acidité du café, donc ça picote un petit peu. Et du coup, le sevrage se passe super bien. Moi, j'ai complètement arrêté le café. Je pense que je reprendrai le café à petite dose quand ce sera un peu réparé, en fait. Mais en fait, je ne pensais pas que le thé, ça pouvait être bon comme ça, quoi. Salut, Némésis. Force à toi, avec cette journée un petit peu stressante qui arrive, là. Elle était belle, l'histoire, hier, tôt des sous. Hein. Salut à toi. Hier, j'ai passé une soirée incroyable. J'ai adoré cette soirée. C'est top, on va y revenir dans un instant, on va venir sur le Téléthon Gaming aussi, qui arrive là vendredi soir à minuit, là, qui va être formidable. On vous prépare une belle émission qui sera diffusée sur France 2 et sur ma chaîne Twitch, qui est une grande première. Donc on aura le chat sur France 2, ça va être top. J'ai un invité qui est top aussi. Et puis on fait, ouais, merci Nico Manga. Merci Camille. Et on fait le million de followers, ce qui est surréaliste. Voilà. J'attendais d'être bien sûr qu'on ait atteint ce million de followers. Bizarrement, j'ai pour la première fois depuis que j'ai lancé cette chaîne il y a 4 ans, à deux reprises et hier soir, j'ai des attaques de bots qui me follow massivement. Voilà, je sais pas ce que ça cherche. Une fois j'ai pris 100 000 followers en un stream, c'est pendant un time out, ça n'a aucun sens. Et j'ai pris 10 000 followers hier soir, c'était hier soir avec Evoxia, hein. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. En général, sur un stream, je gagne entre 300 et 1000 followers max, ça dépend un petit peu. 10 000, ça n'avait aucun sens. Je suis allé voir les courbes, bizarrement, sur 2 minutes, il y avait eu deux pics gigantesques de followers. Donc ça, c'est, je ne sais pas ce que cherchent les gens qui font ça. Alors, on me dit que des bots, ça peut faire ban la chaîne. Moi, quand je vois des attaques de bots, comme c'était lundi soir, ouais, c'était il y a deux jours. Quand je vous attaque de bots comme ça, tout de suite, je m'auto-dénonce auprès de Twitch en disant, disons les gars, j'ai pris 100 000 followers, j'ai pris 10 000 followers, il y a un truc qui ne va pas. Enlevez-les-moi. Voilà. Et donc, je l'ai aussitôt, dès le soir d'ailleurs, j'ai pris les captures d'écran, j'ai envoyé ça à Twitch France pour qu'on m'enlève ces followers. Mais j'ai aussi fait le calcul que malgré cette attaque de bot, on avait réellement passé le million de followers. Et même dans quelques jours ou quelques heures, quand Twitch France va m'enlever ces followers bots, eh bien, on va rester au-dessus du million. J'ai fait mon petit calcul. Et donc, je pouvais le fêter. Parce que c'était un peu embêtant de devoir attendre que Twitch le fasse, puisque Twitch France n'est pas capable de me dire quand ils vont le faire. Ça peut être aujourd'hui, demain, dans plusieurs jours. Ils n'ont pas la maîtrise, ils n'ont pas la main dessus. Voilà, c'est un process un peu automatique. Voilà. Il faut que ça double vite. Darkos. Non, je pense que chaque follower gagné, maintenant, ça va être compliqué. Je ne sais pas si j'ai fait le plein, mais je pense pas que ça va, qu'on va continuer sur ce rythme-là. Je pense pas que dans 4 ans, on sera à 2 millions de followers, quoi. Bon anniversaire Mathis, qui fête son birthday avec nous ce matin. J'espère que tu vas passer une belle journée. Ouais. Oui, c'est simple. Non, je pense que la croissance, elle se fait plus doucement après. Voilà. Mais en tout cas, je suis très heureux de cette belle histoire. Ça, c'est sûr, et c'est grâce à vous. Ça dépend si tu sens encore une émission insane ou un gros événement, ça peut aller vite. Ok. Merci à l'Erwan. Merci à tous. MVP tout à l'heure. Twitch, c'est pas YouTube, le million, c'est déjà incroyable. C'est fou. C'est pour moi, c'est même surréaliste, quoi. C'est même surréaliste. Ça, c'est grâce au tatouage du The Event. Le The Event a été un event cool, en fait. Hein. C'est vrai que le The Event, ça a été. Je crois qu'au The Event, j'ai pris 50, 60 000 followers en 3 jours, quoi. Donc, c'est pas un million, mais 50, 60 000 sur un event, c'est fou. Hein. C'est la puissance du The Event, quoi. Salut, Moumou, Reine des Mouettes. Salut, Asti. 1 million, tu te présentes au présidentiel, c'est ça? Un million de cagnottes, pas 1 million de followers. C'était bien chez Billy hier. Je sais pas si certains d'entre vous étaient sur la chaîne de Billy de Rebeu des Terres hier soir. J'ai adoré cette soirée. Je vous remonte le visuel qui était cool en plus. Cette soirée hier soir avec donc Billy qui invitait, des invités à raconter des anecdotes. Salut Off Mehdi. Salut tes patients de ma part, en vrai quoi. Fais-leur un petit coucou. Et donc il y avait Billy bien sûr, il y avait Catsup que j'adore qui va participer bientôt à l'événement de Billy de boxe là. Je pense que j'irai sur place IRL. Comment s'appelle l'événement de Billy déjà de boxe là qui arrive le 7 décembre je crois. Le DTR voilà. Donc Catsup qui va participer au DTR. Moi je pense que j'irai sur place peut-être avec Hélène d'ailleurs, avec mon amoureuse. C'est un samedi soir. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour garder les enfants. Il y avait Dwag que je vois souvent. Il y avait Gotha que je connais pas plus que ça, voilà. Et j'étais content de le croiser. Et il y avait Kameto bien sûr que je croise parfois, je croise de temps en temps. Voilà, et c'était une super soirée. Dwag, Gotha, Kameto, t'as peut-être oublié Catsup non Floria, t'as vu qu'il y avait une fille quand même. C'est important. Voilà, bonne soirée où chacun raconte une petite anecdote. Puis moi, j'ai raconté. Kalina, c'est son prénom, ouais, Catsup. Il y a Floria qui, en fait, est en train de nous lister tous les gens présents sur, sur la photo. Merci, Kaya. Merci beaucoup, Floria. Tiens, rajoute Samuel Etienne, comme ça, t'auras tout le monde. Enfin. Peut-être que je vous mette la photo, d'ailleurs. Attendez. Peut-être que vous la mettre, d'ailleurs, parce que j'en parle. Hop, regardez. T'as goûté les burgers de Billy ? Attends. Les burgers de Billy. Attends, les burgers qu'on a mangé hier soir, c'était les burgers. C'est son resto ? C'est son resto ? Le burger de... Les burgers qu'il y avait hier soir au buffet, c'est... Il a un resto, Billy ? En vrai ? Non, Floria dit c'est pas son resto. Ok. Je crois pas qu'il a un resto. Hein. Non, non, non. Bon. Ouais. J'étais un peu en gastro ce matin d'ailleurs. En vrai, de vrai. Je me suis demandé si j'allais pouvoir présenter cette revue de presse. Désolé de vous infliger ça dès le matin. Mais le ventre hier soir était bien flingué. Et ce matin aussi. Je sais pas si c'est un virus que j'ai attrapé ou un truc que j'ai mangé. Non, mais pardon. J'ai eu un vrai doute. J'ai eu un vrai doute hier soir. Finalement, la nuit s'est bien passée. Mais ce matin, j'étais un peu. Ouais, la gorge aussi. Mais la gorge, on s'en fout, c'est pas grave. J'ai eu un doute. Alors, il y a un truc que j'ai mangé. Pourtant, hier soir, j'ai mangé des cookies, en fait. Des cookies, du thé, des frites. Et le burger, je l'ai mangé pour moitié ce matin. Donc, c'est pas le burger. Je sais pas. Mais voilà. Alors, c'est drôle parce que du coup, dans mon histoire d'hier soir, dans le marathon des sables, il y a une histoire de gastro. Le moral, il va très bien, Kaya. Je suis très heureux. Très heureux. Ouais. C'est la pression du million de followers. Je sais pas. Peut-être un petit virus, quoi. Peut-être un petit virus. Voilà. Mais là, ça va bien, là. Ça va bien, ça tombe bien, parce que journée est chargée. Donc, parce que revue de presse avec vous, qui va commencer dans un instant, j'ai des trucs super intéressants. Hein. Je suis vraiment content des articles de ce matin. Et puis, je vous montrais donc, l'event d'hier soir avec Billy, qui était cool. Mais moi, j'ai mon petit event à moi, mon MVP qui arrive. Voilà. Mon émission sur le monde de l'emploi. MVP, ma vie pro, qui propose à tous les viewers d'explorer à chaque nouvelle émission des métiers, des secteurs d'activité, des univers pro, voilà, pour que chacun puisse trouver sa voie, pour les plus jeunes qui sont déjà leur avenir, collégiens, lycéens, étudiants, ou pour les plus âgés qui travaillent déjà, peut-être réfléchir à d'autres postes, d'autres secteurs d'activité. Voilà. Donc là, c'est une très belle émission qui arrive, vraiment, vraiment, salut Zarakay, avec Marie Palot qui revient, donc qui fera une chronique, Lorraine Lévy, que je ne connais pas, donc dans la bande des chroniqueurs, chroniqueuses aussi, qui a fait une jolie chronique très bien écrite. Je crois qu'on commencera avec elle sur justement comment trouver un bon stage ou une bonne alternance. Green flag, red flag, voilà, ce à quoi il faut faire attention pour trouver un bon stage, une bonne alternance. Lorraine a fait un super papier. Lorraine, c'est une créatrice de contenu qui promeut le bien-être au travail. Voilà, c'est pas mal ce qu'elle fait. Salut FKFKKMK. Pop. Merci pour ton message. Marie Palot va venir faire une jolie chronique aussi sur un truc qu'elle a vu au Japon, parce qu'elle adore le Japon, qu'elle a vu de ses yeux au Japon, sur comment dès le plus jeune âge on incite les jeunes japonais à penser à leur avenir professionnel. Mais c'est un petit peu too much. Ludovic B, lui, il est là à chaque émission, c'est un peu un pilier. Ludovic B, spécialiste des métiers, il a une chaîne YouTube sur les métiers, et là il va explorer un nouveau métier aujourd'hui avec nous, qui est le métier de boucher. Voilà, parce qu'on ne s'intéresse pas qu'aux créateurs de contenu. Un boucher, comment on devient boucher, quelle est la formation pour devenir boucher, bouchère, quelle est la rémunération, tout ça. Voilà, donc là. Et Philippe Catherine. Voilà, vous allez me dire, qu'est-ce que Philippe Catherine fait dans une émission sur l'alternance, sur les stages, hein, gagner de l'XP en études, tout ça. Tout simplement parce qu'en fait, nous, on a un invité exceptionnel à chaque fois. On a reçu Edith Préto, on a reçu pas mal de streamers aussi, on a reçu... donc on a reçu Henri Tran aussi la dernière fois, on a reçu, qui on a reçu, plein de gens. Je ne sais pas s'il sera tout bleu, je ne sais pas s'il sera tout nu, parce que récemment il est venu présenter une chronique sur France Inter, il était tout nu. Et tout simplement parce qu'en fait on invite des gens et on leur demande de nous parler de leur parcours professionnel. Alors évidemment Philippe Catherine, on pense aux Jeux Olympiques, on pense à son univers musical, on pense à ses talents de comédien, parce que c'est un garçon assez incroyable, mais il a eu un parcours. Il a eu une formation, je crois qu'il a fait art plastique. Il a fait plein de petits jobs à une époque où c'était un petit peu compliqué pour lui. Il a connu le succès finalement assez tard, hein, avec Luxor, j'adore. Donc comment il a fait, quel est son parcours, quelles études, comment sa famille a vécu son parcours artistique. Voilà, est-ce qu'il va couper le son, très bon ça. Voilà. Donc, voilà. Donc on reçoit Philippe Catherine pour parler parcours, pour parler boulot. Ah, évidemment, ça va... tout le monde ne destine pas à participer à la cérémonie des Jeux Olympiques tout bleu ou de chanter Louxor ou d'autres belles chansons. Il y en a une que j'adore qui s'appelle J'emmerde. Je t'emmerde, non ? Je vous emmerde. J'adore. Ceux qui ne connaissent pas. Je vous emmerde. C'était avant Louxor. Moi, j'écoutais déjà Philippe Catherine avant, en fait. Je vous emmerde. Chanson géniale. C'est pas la plus connue de Philippe Catherine. Enfin, ceux qui connaissent Philippe Catherine connaissent cette chanson. C'était avant Louxor, j'adore. Et c'était génial. Ça s'appelle Je vous emmerde. Allez écouter cette chanson. Elle est juste géniale. En plus, il y a une voix de meuf après qui arrive. Et il y a un dialogue entre Philippe Catherine et cette meuf. Et j'adore cette chanson. Si vous, ceux qui ne connaissaient pas cette chanson, allez l'écouter, elle est vraiment cool. Je vous emmerde. Voilà, c'est pas un truc que je vous dis, moi, c'est le titre de la chanson de Philippe Catherine, bien sûr. Reprise des betteraves, ah bon ? Ah bon, je vous emmerde. Hein ? Je vous emmerde. Betterave. Ah ouais ?
Il faut reconnaître qu'à première vue, il semble, disons...
C'est quoi les betteraves ? C'est un groupe français.
Il faut reconnaître qu'à première...
Il n'y a pas de clip. C'est drôle, ça.
Il faut reconnaître qu'à première vue, il semble, disons, excentrique.
David. Il y a des martiens qui se sont fait exiler de Mars pour attitude étrange, et ils étaient moins étranges que ce gars.
Il a un style très original.
Bien ça.
J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer.
La mer.
Mais je suis dans la merde.
Et je vous emmerde. Eh, hey, c'est bien. C'est quoi les betteraves ? Des anciens de Guérilla Poubelle, c'est quoi ce groupe ? Ouais, Roy S. Grove, c'est une bonne idée ce que tu dis. C'est quoi ce groupe ? Punk ? Punk français ? Trop bien. Ouais, ok, je comprends. Attendez. Wikipédia est mon ami. Est-ce que Wikipédia fait un truc sur groupe Les Betteraves ? Du bon punk à la Fatal Picard ? Les Betteraves. Groupe de rock. Wikipédia, let's go. Groupe de rock français originaire de Paris, actif entre 99 et 2003, c'est vieux. Ska punk, punk rock, deux albums, 99 formations, copains de lycée, notoriété, concerts, parfois ils sont déguisés. Ok, premier album 2002. Ouais, l'album est suivi par un single, deux titres intitulé Un couscous pour Jean-Marie. J'aime ce que je vois, j'aime ce que j'entends. Ok, la popularité, ok. En pleine apogée de la gloire, le groupe décide de faire un concert d'adieu et de se dissoudre. J'aime. D'accord. La popularité du groupe continue de s'accroître même après sa disparition, notamment grâce à leurs chansons humoristiques disponibles sur les réseaux et leur site officiel. Voilà. Après l'arrêt des betteraves, Thiel et Étienne fondent Guérilla Poubelle. Donc c'est pas des anciens de Guérilla Poubelle. C'est les betteraves qui deviennent Guérilla Poubelle. Incroyable. Ok, on a encore pris des trucs. Merci, vous êtes incroyable. Quelle culture le chat. Vous m'impressionnez en vrai. J'aime. J'ai découvert un truc là. Et je vous... Oh, excusez-moi. Nanana. C'est drôle. Et je... C'est drôle. Koala dangereux, salut Samuel. Je me rappelle de ta première revue de presse où tu disais si ça plaît à 10 personnes, ce sera déjà bien. Sérieux ? J'ai dit ça. C'est trop... J'ai ma petite cuillère qui dépasse, là, c'est mignon. C'est vrai, c'est incroyable. Quelle folie. Quelle folie. Tu devrais en faire un jingle. Ouais, on ranquade, on ranquade. En vrai, j'ai une table de mixage là où je pourrais mettre plein de... Où je pourrais mettre plein de... De petits sons d'ailleurs, de petits jingles là, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Waouh, c'est vrai. Si ça plaît à 10 personnes, ce sera déjà bien incroyable. J'ai mon mail pro, Rosie Irgrove, n'hésite pas à m'envoyer sur mon compte Twitter, j'ai mon mail pro. N'hésite pas à m'envoyer un petit message. Voilà. Sachant que bah, après, je n'ai pas forcément la maîtrise de l'ordre du jour, parce que, mais si on fait une émission de ce type, ça pourrait être très intéressant. Quoi. Voilà. Tu as les grandes bouches aussi de Toulouse. J'adore. Bon, donc le MVP, c'est tout à l'heure. Voilà. Et puis pour finir sur l'actu, qu'est-ce que j'ai d'autre, moi, dans la semaine? Rien de spécial. Ah, si, si. Ah, si, il y a un simplet qui arrive qui est super. Ah, si, il y a un simplet qui est super. Qui arrive dimanche. C'est peut-être le dernier simplet de l'année 2024. Puisque peut-être que je serai en pause sur la fin du mois de décembre. Pour reprendre de plus belle en janvier avec un super premier invité qui va être incroyable, qui est vraiment incroyable. Et donc j'ai un samplet qui arrive dimanche là. C'est peut-être pas le dernier, peut-être que j'en calerai encore un ou deux, mais c'est pas sûr. Voilà, avec alors l'invité, je vais vous le révéler aujourd'hui sur les réseaux. Je pense que je posterai le tweet en fin d'après-midi. Camille, à tout à l'heure, bonne journée. Mais le jeu sera TFT. Ouais, ça va être vraiment bien. Un peu de vacances. Alors ce sera. Alors je vais prendre des vacances à Noël. Alors c'est vrai que. C'est pas... Le mec, il a pris le million de followers, il a pris le million, puis il prend le melon aussi. Donc, c'est vrai qu'à Noël, je vais prendre 2 semaines de vacances. Je vais prendre 2 semaines de vacances. Et je pense que je ne vais pas streamer. Je vais partir en Bretagne voir ma famille. Et après, je pars avec mon épouse et mes enfants. Et on prend vraiment une semaine. Donc, je pense qu'il y a un monde où je break quasiment 2 semaines en décembre. À Noël, Nouvel An. Voilà. Parce que je n'ai pas fait ça depuis 4 ans, quoi. Et donc ça c'est décembre, février il y aura une semaine de pause, Pâques peut-être pas, voilà, ouais, voilà. Et donc voilà, je vous préviens, le mois de décembre je vais prendre un petit peu de temps. Quoi. Invite Gotaga, on s'est croisé hier. Donc vendredi simplet TFT. Alors ça c'est super important. Voilà. Si vous ne regardez qu'un stream de moi cette semaine, vous regardez ça. Ça. Vendredi soir. Venez. Alors c'est super tard. Hein. Il va falloir prendre du café, du Red Bull, ce que vous voulez. Non, Gotha, dimanche, non. Ah bah non, Gotha, si je l'invite, c'est pour jouer à Call of. Bah non. Ah bah non, TFT, non. Ah bah c'est gâché. Ah bah non, si Gotaga il vient sur Simplay, ce sera pour jouer à Call of. Ah bah non. TFT, Teamfight Tactics pour les intimes. Non, c'est pas Gotha. Ah bah non. Non, Gotha, ce sera Call of, s'il vient. Venez vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, minuit 5, sur France 2, et en même temps sur ma chaîne Twitch. Donc le Téléthon Gaming. Téléthon Gaming, mobilisation de 200 streamers. Sur place ou en distance. Quand je dis sur place, c'est à la Carmine Corp. Hein. C'est à la Carmine Corp Arena. Oui. En fait, c'est une émission qui a été pensée à la fois pour être diffusée sur France 2, d'accord, et en même temps sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. Et on aura... ça veut dire que je vais streamer sur ma chaîne, ok, et je vais me servir du chat aussi, évidemment, donc je vais être avec le chat. Même si ça va être une émission très dense en invités, on va recevoir des malades, enfants ou adultes, certains malades atteints de maladies orphelines rares, très handicapantes, qui sont des gamers, qui sont des amateurs de jeux vidéo avec du matériel adapté. Donc on va recevoir des malades, on va recevoir leurs familles, on va recevoir des chercheurs, hein, donc comme d'habitude au Téléthon. Voilà. Puis on va inciter à la mobilisation, 36-37, téléthon.fr, tout ça. Et donc ça c'est une émission sur comment le gaming, comment les joueurs, comment les joueuses, les créateurs de contenu, les créatrices de contenu se mobilisent pour le Téléthon. Donc ça c'est sur France 2 comme d'habitude. C'est la 4e édition du Téléthon Gaming sur France 2. Sauf que cette année, tu auras les droits du replay sur ta chaîne. Mais c'est pas du replay. Non, c'est sur ma chaîne. Oui, bien sûr, le replay sera chez moi. Bien sûr. Non, c'est en fait, l'émission est pensée pour être sur France 2 et sur ma chaîne Twitch en même temps. Donc ça, c'est la première fois dans l'histoire c'est du direct, bien sûr. Bah oui, il y aura le chat, c'est du direct. Et c'est jamais arrivé qu'une émission de France 2 comme ça soit diffusée à la fois sur une grande chaîne de télévision comme France 2 et sur une chaîne Twitch. Voilà. Oui, j'ai répondu. J'aurai les droits sur cette émission, donc elle sera en replay chez moi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire des bruits de paix sur France 2? Peut-être. Voilà. Voilà. Il y a deux choses cool, encore plus cool. C'est que, un, c'est à la Carmine Arena. Donc, Cametto, les dirigeants de la CACORP, nous prêtent la Carmine Corp Arena, donc l'arène d'Evry. Voilà. Donc, l'event sera là-bas. Donc, on sera là-bas. Là. Et avec moi, j'aurai un invité un peu exceptionnel, un ambassadeur du gaming, du streaming, qui sera un peu mon invité fil rouge à mes côtés, qui sera Elian Ventre, voilà, que vous connaissez notamment pour sa participation à la bande de Zen. Bien ou pas bien? Bien ou pas bien ou pas? Voilà. Ouais, c'est cool, hein? Voilà. Voilà, ça c'est vendredi soir, c'est un peu tardif, mais soyez là, ça va être cool, quoi. Voilà. Ça va être génial. Tu seras obligé de mettre autre chose qu'un sweat? Bah, tu sais, parfois je mets des vestes dans mes streams. Hein. MVP, là, tout à l'heure, je vais être en t-shirt veste. Hein. Tu vois? Ça dépend. Ouais, je serai en t-shirt veste, par exemple. Ça dépend de l'émission, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vendredi soir, soyez avec moi. Et vendredi, je tourne dans. Mais ça, vous le verrez pas avant un petit moment sur une vidéo YouTube avec un gros YouTuber français. Mais j'en parle pas plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des petits streams gaming d'ici là? Hein? Est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'on a? Peut-être un stream gaming ce soir. Est-ce qu'on fait du Valo pour appliquer le coaching des Voxia? Ce serait une bonne idée. Peut-être bien, ouais. Ce qui nous permettrait, par exemple, demain jeudi, de faire du GTA. Ouais. Donc, vous savez quoi? Moi, j'ai bien envie de faire du Valo ce soir pour appliquer les conseils des Voxia et du GTA demain. Hein? Voilà. Le RP donc demain soir. Peut-être demain après-midi du GTA normal, GTA mode solo histoire, et demain après-midi du GTA RP. Voilà. Et ce soir du Valo. Voilà, les amis, pour le menu. Merci Roctali. Pardon, j'ai pas remercié les subs. Roctali, merci pour le 39e mois d'abonnement. Waouh, 39 mois. Incroyable. Don Diplomatico, merci pour le 24e mois. Merci Ulmot pour le 5e mois. Merci Jérôme LC pour le 2e mois. Merci Oni Nemesis. Pour ce deuxième mois, merci beaucoup Bob Jeune 77, merci pour ce soutien. Jixalas pour le prime, Iclick pour le prime, Yayabou, Zoulou, Chuteux, Sourebo, Caldoreille, merci beaucoup pour les soutiens. Voilà. Ouais, et puis merci à Evoxia parce que j'ai passé un super moment avec elle, ce stream de 7 heures qu'on a fait de coaching là, lundi soir sur Valo. C'était incroyable, quoi. Pourquoi pas mettre le tweet en épinglé sur la chaîne? Quel tweet? Ah, du Téléthon? Oh, ça va, vous êtes suffisamment malin pour retenir un truc. T'inquiète. Ouais, bonne question d'Alexandra qui demande pourquoi je suis pas dans mon studio du mercredi. Tu sais, le studio qui est juste qui est tout près du studio de MVP. Bah parce qu'en fait, force a été de constater qu'il y avait des petits problèmes techniques dans ce studio. Au niveau de l'image, au niveau du son, voilà. Au niveau du replay. Les plus fidèles de cette chaîne le savent. Ça a été des petites déceptions au niveau technique. Donc du coup dans comme moi ça m'ennuyait vis-à-vis des viewers que par exemple il manque une demi-heure de son sur le replay ou qu'il n'y ait pas de son du tout ou que je puisse pas passer d'extrait vidéo parce que il y avait pas de son, enfin bref, c'était un peu compliqué. À chaque fois il y avait une demi-heure de mise en place dans le studio parce qu'en fait le studio était pas prêt. Ça m'a un peu saoulé et comme je suis un peu exigeant et un petit peu casse-couille, j'ai dit bon bah écoutez, réglez vos problèmes, moi je vais streamer la revue de presse le mercredi depuis chez moi. Et donc, je vais cut le stream à 11h. Et puis, j'irai au studio de MVP. Et à midi, on reprendra MVP là-bas. Voilà. Voilà. Comme ça, en fait, ça fait deux revues de presse. OK. 9h. Est-ce qu'on y va? Voilà, il nous reste 2h ensemble. Est-ce qu'on y va pour un petit sommaire, bande de beaux gosses? Petit sommaire de l'actu, comme ça ceux qui n'ont pas 2 heures, qui ont 5 minutes, vous avez juste l'essentiel de l'actu, quoi. C'est parti ? Super, je vais pouvoir voir les revues de presse, je tombais que sur celle de Sanson. Bah ouais, Crampy Dobby, c'était nul en vrai, ça m'a saoulé ça. Non, un peu saoulé en fait. Donc moi, je, les viewers qui loupent la revue de presse, ils n'ont pas le truc, donc ça m'a saoulé. Ouais. Bienvenue à El Focus. Merci Mémurette pour le soutien. Merci Alexandra pour ta question, c'est une très bonne question. Ok, c'est parti pour le sommaire, vous allez voir, on a des choses vraiment intéressantes en vrai. Merci Ayam Sofia, c'était bien hier chez Billy. Le moment est grave. C'est parti pour le sommaire, le moment est très grave. De quoi s'agit-il ? Il y a un risque, il y a un monde où le budget de l'État français, le budget de la France n'est pas voté dans les prochains jours. Pourquoi ? Parce que si jamais le gouvernement décide de le faire passer par 49-3, eh bien, il y aura une motion de censure à annoncer l'opposition qui pourrait être votée par les voix conjointes du Rassemblement national et de la France insoumise. Dans ce cas-là, boum, motion de censure, le gouvernement tombe. Ce serait une deuxième dans l'histoire de la Ve République depuis c'est Pompidou, je crois, qui avait connu ça dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un truc, ça n'arrive pas souvent. Voilà. Ce serait historique. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus, parce que c'est arrivé qu'une fois, et puis à l'époque, de Gaulle, on n'a rien eu à foutre. De toute façon, il avait une majorité à l'Assemblée, donc il a renommé Pompidou derrière. Donc en fait, ça, il ne s'est rien passé. C'était un coup un petit peu pourri, un coup dans l'eau. Par contre, là, 62, ouais, c'est ça, 1962. Par contre, là, c'est différent parce que le président Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc, si le gouvernement Barnier tombe, Macron ne va pas renommer Barnier derrière. Donc déjà, quel gouvernement derrière ? Et autre question, si le budget n'est pas voté, le budget, c'est les recettes et les dépenses du pays, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut continuer à payer les fonctionnaires ? Est-ce qu'on peut continuer à payer ce qu'il faut à l'éducation nationale ? Est-ce qu'il faut, etc. Est-ce qu'on peut continuer à prélever les impôts ? Parce qu'il n'y a plus de cadre légal. Alors, il y a des petits artifices, des petits machins, des petites tricheries, des petits votes express pour arranger tout ça, mais c'est un peu le bordel. On sort un peu du cadre habituel. Donc, on va se pencher là-dessus, sur ce qui se passe. Ceux qui disent... Moi, pour vous donner mon sentiment, ceux qui disent ça va être une catastrophe, ça va être un enfer, ça va être la chienlit, ça va être bon, je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Hein. Et ceux qui disent qu'il va rien se passer et que ça a aucune conséquence, je pense qu'ils exagèrent aussi un petit peu. Et derrière ces deux discours, ça va être une catastrophe. Hein. Les gens qui disent comme à l'instant Régis Droppe, c'est pas grave, c'est le budget 2024 qui va être repris, donc l'année d'avant, eh ben c'est plus compliqué que ça. Voilà. Ceux qui disent ça va être un enfer et ceux qui disent il va rien se passer, dans les deux cas, c'est une lecture politique. Et c'est une lecture politique de l'événement. Voilà, Et justement, ce matin, il y a des papiers qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse en mode non, mais c'est super grave ou c'est pas grave du tout. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et ça, Le Parisien va nous faire comprendre. Donc on va lire deux articles là-dessus et un article dans Le Monde justement qui se penche sur qu'est-ce qui va se passer en France s'il n'y a pas de budget. Voilà. Politique toujours avec la fin d'une ère. Anne Hidalgo a annoncé en début de semaine qu'elle ne se représenterait pas à un troisième mandat à la mairie de Paris. Voilà. La fin de l'ère Hidalgo. Donc du coup, vos journaux ce matin, ils se penchent sur le pourquoi Anne Hidalgo ne se présente pas à un troisième mandat. Elle a donné une interview au Monde. Et puis, ils reviennent sur le mandat, le bilan d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Je vois déjà des réactions dans le chat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une maire qui n'a pas laissé indifférente. Voilà. Elle a ses soutiens et elle a ses détracteurs. Voilà. Souvent, un maire d'une grande ville, souvent, eh bien, il arrive à rassembler, à réunir au-delà de son camp. Voilà. L'étiquette politique du maire n'est pas toujours importante. Ouais. Ben, ça n'a pas marché avec Anne Hidalgo. Là, clairement, voilà. Elle n'a pas réussi à réunir autour de son camp. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan déjà d'Anne Hidalgo ? Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Qu'est-ce qu'il y a de critiquable et qui est notamment critiqué par des gens ? Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup hérité. Voilà. Est-ce que c'est juste ou injuste ? Ça, on va en parler ensemble tout à l'heure. Voilà, l'interview d'Anne Hidalgo au Monde qui explique pourquoi elle ne va pas se présenter. Et puis, qui pourrait la remplacer ? Qui va gagner la mairie de Paris la prochaine fois ? Hein, The Black Crow parle de la candidature de Rachida Dati, par exemple. Voilà. Hein. Je vous ai parlé déjà en début de semaine de ce sommet mondial pour tenter de lutter contre la pollution plastique, notamment ce plastique qui, à dose infinitésimale, rentre dans notre alimentation, dans l'eau que nous buvons, même dans l'air que nous respirons, eh bien, il y a une prise de conscience au niveau mondial. Il y a un sommet pour tenter de limiter la pollution plastique. Voilà, peut-être la production. Eh bien, la croix revient pas tellement sur ce sommet, parce qu'on sait que ça va sans doute mal se passer et que ça va être compliqué de trouver un accord au niveau mondial. Mais sur cette pollution plastique, moi, j'ai été halluciné de ce que j'ai appris ce matin dans la croix au niveau de cette pollution plastique. Alors, c'est pas la pollution plastique, c'est pas seulement les sacs plastiques qu'on voit voler dans la rue ou dans les campagnes. La pollution plastique, c'est ce plastique invisible qu'on mange, hein, qu'on respire, qu'on boit. On va se pencher là-dessus, quoi. c'est incroyable, c'est comme ça. Donald Trump, donc président élu, qui rentre en fonction en janvier aux États-Unis, était poursuivi par la justice américaine pour plein de trucs, hein, des trucs perso, des trucs publics, des trucs politiques, voilà. Ben c'est fini, voilà, parce qu'en fait la justice américaine est en train de dire ben il est impossible de poursuivre un président américain. Bah, je répète ces quelques mots, c'est super simple. Il est impossible de poursuivre en justice un président américain. C'est la jurisprudence, donc. Bah, du coup, ça, voilà. Donc peut-être qu'après son mandat, que les poursuites reprendront, mais là, il est tranquille pour 4 ans. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Merci Porto, tu régales. Porto TV vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Ouais. Il a payé pour qui pour ça ? Rien, c'est la Constitution américaine. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Après, la Constitution américaine, elle est bizarre sur certains trucs. Et on va finir par un débat que je trouve passionnant sur le travail. Il y a un article dans Les Échos sur quand le travail devient une addiction. Vous connaissez peut-être des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent trop, hein, qui sont tellement accros à leur travail pour X ou X raisons que ils délaissent un peu le reste. Délaissent leur santé physique, délaissent leur santé mentale. Je vous vois. Ceux ne sont pas forcément aussi présents dans leur famille qu'ils le devraient ou qu'ils le pourraient. Ont renoncé à toute vie sociale. Font moins de sport ou pas de sport. Voilà. Délaissent leur sommeil. Voilà. Vous voyez ces gens-là, quoi. Je vous vois. Donc, voilà. Donc, il y a un article dans Les Échos signé de deux docteurs en neurosciences qui disent ben, que ce n'est pas une très bonne idée. Voilà. Et alerte sur l'excès d'addiction au travail. Voilà. arrêtez. Voilà. On verra si je suis d'accord, si vous êtes d'accord. Et puis, dans Libération, cette fois, un gros dossier, une double page sur, au contraire, comment les jeunes de la génération Z sont en train de réinventer le rapport au travail. Alors, là aussi, c'est comme pour l'affaire du budget. Il y a des jugements parfois définitifs, très catégoriques de gens qui aiment bien penser blanc, noir, qui aiment bien penser de façon manichéenne en disant « Ouais, alors vous avez donc du côté des vieux, ah, la génération Z, c'est vraiment une belle bande de bras cassés. Les mecs ont un poil dans la main, c'est pas un poil, c'est une perruque. Ouais, c'est des, ils ont aucun courage, aucune volonté, ils veulent pas taffer, c'est impossible de les embaucher. » Vous connaissez ce discours. Voilà. Et puis, au contraire, les gens de la génération Z qui disent « Non, c'est vous qui avez rien compris. Vous avez eu une représentation du travail, vous les vieux, complètement débile. Vous êtes fait bouffer par votre boulot, par les entreprises qui n'avaient pas de valeur, qui vous ont essoré au niveau du rythme de travail. Donc nous, on ne veut pas se faire bouffer par le travail. L'équilibre de la vie, il est ailleurs. Il est dans un travail qui a du sens, avec une entreprise qui a des valeurs, avec un rythme de travail qui est acceptable, avec pourquoi pas un peu de télétravail. Voilà, puis un travail qui me laisse le temps de faire des trucs à côté. Voilà. Donc ça, c'est le discours manichéen un peu du café du commerce, quoi. Et puis la vérité est ailleurs, c'est-à-dire il y a des enquêtes de chercheurs sur cette génération Z qui disent, bah non, c'est un peu plus compliqué que ça. La génération Z, c'est pas qu'elle ne veut pas travailler, hein. C'est tout simplement qu'effectivement elle est en train de redéfinir de manière collective, parce qu'après il y a des comportements individuels qui échappent au groupe, hein. Dans la génération Z, il y a des barjots de boulot, hein. Et puis il y a des mecs qui veulent pas en foutre une. La génération Z, ce n'est pas tous les gens de la génération Z. Hein. Mais les chercheurs, je pense, cette génération Z qui réinvente effectivement collectivement le rapport au travail, qui veut travailler différemment. Et ça, c'est intéressant. Voilà, là encore, c'est un article qui met un peu de finesse et qui sort un petit peu des jugements un peu caricaturaux qu'on peut entendre au café quand les mecs sont un peu bourrés ou sur certaines chaînes d'infos. Ça arrive aussi. Ils ne sont pas bourrés, mais ils sont un peu cons. Voilà. Eh, est-ce qu'il est pas mal ce sommaire ? Non ? Eh, petite actu cool, hein ? Ça, c'est le récap. Vous avez l'essentiel de l'actu. Ah, et maintenant, on va le dire tout ça tranquillement. Bah oui, il faut dire les termes, hein. Bon, c'est bon. Ici, on a le droit. Hein. On n'est pas à la télé, justement. Non, merci, on n'est pas tous dans cet élan. Dieu merci, on n'est pas tous dans cet élan, me dit Final Fox, mais force est de constater que les nouveaux stagiaires et employés, c'est vraiment difficile à gérer. Voilà, on va parler de tout ça. Un sommaire qui sommarise bien. Merci, Judefend. Ah, ça, Sois jeune et tais-toi de Salomé Sakai. J'ai lu. Salut Creatix, j'aime beaucoup Salomé. Je veux la revue de presse dans le sens inverse par contre. Non, de Redeld. Si c'est une dictature, c'est moi qui choisis l'ordre. Donc on va commencer plutôt par le budget. Merci Fit TV, ça me paraît hyper important. Merci pour le Prime, merci Porto encore pour les 5 abonnements. Merci Mirette. Merci beaucoup pour le 25e mois. Merci Mimured. Merci Lat Lévy. Merci Guiwi. Merci beaucoup. Hydrofunky. Ah non, je viens d'arrêter. Je viens d'arriver, j'ai raté le sommaire, je vais devoir regarder tout le live. Ah, bon, il y en a pour 2 heures max. Non, Reflexion, e-télévision, e-télé, c'était une rédac assez libre. Ouais. C'était assez libre. Ouais. On était bien là-bas. De toute façon, je ne peux pas bosser dans une rédaction, je ne suis pas un peu libre, moi. Sinon, je m'en vais. Voilà ce que j'ai souvent fait dans ma vie professionnelle, d'ailleurs. J'ai souvent changé de boîte parce que quand je suis bien, je suis bien, je reste. Puis quand je ne suis pas bien, je m'en vais. Ce serait trop bien d'inviter Salomé un jour. Bon, elle est venue plein de fois, c'est venue sur la chaîne déjà. Elle est venue plein de fois sur la chaîne Salomé déjà. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce que vous êtes chaud ? Patate ! Est-ce que c'est un yes ? Salut petite pocket. T'es parti ? On y va ? Eh bien on y va. Ce moment... Merci Adrien Obam. Ce moment est très grave. Bah, qui c'est qui le dit ? Merci Chiguri de 71. Eh bien c'est le Premier ministre, c'est Michel Barnier. Merci encore Fait TV, qui l'a dit dans une interview à la télé, je crois que c'était sur TF1, le moment est très grave. Sur TF1, c'est bien ça, le Premier ministre a évoqué les risques auxquels le pays serait confronté en cas de rejet du budget, une façon d'essayer d'éviter une censure. Voilà, la fameuse motion de censure dont je vous parlais, zoomons un petit peu, après on lira l'édito qui est à gauche, là, qui dit de toute façon c'est le bordel, la France est ingouvernable. Lumière, du coup, c'est quand la France disparaît de la surface de la planète si on n'a pas de budget. Voilà, je parlais tout à l'heure des gens manichéens, ceux qui crient à la catastrophe en disant que ça va être un enfer, et ceux qui disent qu'il ne va rien se passer. Évidemment, la vérité, l'intelligence, elle est entre les deux. C'est ce qu'on essaie de faire ce matin. Michel Barnier s'est donc invité dans le salon de millions de citoyens ce mardi soir. C'était hier soir. Bon, moi, je ne pouvais pas jeter chez Billy. Pour tenter de remettre son église budgétaire au milieu du village français. Le moment est très rare. A-t-il dit, c'est le vote du budget de la nation qui est en cause et qui conditionne la vie des communes, la vie de l'État, la vie des hôpitaux, de tellement de gens, a-t-il dit, mettant en garde d'emblée le Premier ministre volontiers solennel. Donc on est du côté des gens qui disent que ça va être une catastrophe. Sans budget, en même temps tu m'étonnes, c'est le Premier ministre, le mec il essaie de garder son poste et puis de faire durer son gouvernement. Donc s'il y a motion de censure, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de budget. Donc évidemment, il a tout intérêt à dramatiser le truc. Là-dessus on est d'accord. Qu'est-ce qu'il dit ? Sans budget, il y aura une tempête assez grave et des turbulences sur les marchés financiers. Vous savez qu'on va voir tout à l'heure qu'en ce moment, la France, qui est un pays qui est assez endetté, hein, la France emprunte à des taux d'intérêt qui ne sont pas terribles. On est proche des taux d'intérêt de l'Espagne, de la Grèce. Ça veut dire que les investisseurs internationaux nous prêtent de l'argent, mais cher, plus cher que l'Allemagne, par exemple, parce qu'ils estiment qu'il y a pas mal d'incertitudes politiques / économiques. Hein. C'est pas une très bonne nouvelle, parce que du coup, la charge de la dette augmente. Hein. Donc, une tempête assez grave et les turbulences sur les marchés financiers. C'est déjà un peu le cas, en fait. Voilà. Mais est-ce que ça pourrait être aggravé ? Oui, sans doute. Oui. En fait, les marchés financiers ont commencé à s'interroger sur la France au moment de la dissolution, en disant « Oh là, c'est pas une super idée la dissolution, qu'est-ce qu'il nous fait Macron ?» Puis après, quand ils ont vu le résultat de l'élection, avec une assemblée hyper divisée et un pays un peu ingouvernable, puisqu'avec pas de majorité très claire qui s'est dégagée, les investisseurs qui n'aiment pas trop le risque, évidemment ils prêtent leur argent, donc c'est pour le retrouver après, ils ont dit « Oula, la France c'est bizarre en ce moment, c'est bizarre la France en ce moment ». Donc évidemment, si demain on annonce à ces investisseurs internationaux que la France n'a pas de budget, la France est incapable de trouver une majorité pour faire passer le budget ou le faire passer par 49.3, ça n'arrange pas les choses. Ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est pas faux. Ça ne dépend pas de nous. C'est les marchés internationaux. Et les marchés internationaux, on sait exactement comment ils réfléchissent. Ce n'est pas très, très compliqué. Sur cet aspect-là, on ne peut pas dire qu'il est tort, Barnier. Sans budget, il y aurait une tempête assez grave et des turbulences sur les marchés financiers. Rappelons que la France a une dette incroyable de 3 228 milliards. Hein, certains fêtent leurs millions de followers. La France fête son 3228e milliard d'euros de dette. Voilà. Et un taux d'emprunt proche de celui de la Grèce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Merci, mes Brésiens. Merci, vos Rosdeniers. Il s'agissait aussi pour l'ancien négociateur. Oui, la France est endettée à hauteur de plus de 3000 milliards. Ouais, dans ma jeunesse, dans mes études, on était à 1000 milliards. Déjà, on disait, waouh, 1000 milliards, vous êtes fous. Ouais, on est à 3000 milliards maintenant de dette. Ouais. Après, vous mettez un pourcentage d'intérêt là-dessus, puis. Vous vous rendez compte qu'en fait, la charge de la dette, hein, on estime que la charge de la dette de la France aujourd'hui, c'est ce qu'on paye en intérêt chaque année aux gens à qui on doit de l'argent, c'est le budget de l'éducation nationale. Pour ceux qui disent la dette, c'est pas grave, voilà. On a à peu près, en intérêt de dette, le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire que si on n'était pas endetté, on n'est pas le seul pays endetté au monde, hein, mais si on n'était pas endetté, on pourrait mettre cet argent sur l'équivalent de l'éducation nationale. Ouais. Ouais. Donc c'est pas rien. Ça a commencé, la dette de la France a commencé dans les années 70 sous Valéry Giscard d'Estaing, pour ceux qui s'intéressent à tout ça. Il s'agissait aussi pour l'ancien négociateur. Tous les ans, bah oui, le taux d'intérêt, bah oui, c'est tous les ans, Jules Julien. Les intérêts, c'est tous les ans. Bah oui. Merci Jules Julien. C'est pas une fois. Hein. Quand tu empruntes pour acheter un appartement, tu payes pas les intérêts une fois. Tu les payes tous les mois, pendant toute la durée de ton prêt. C'est là où l'argent se fait de la thune. Il s'agissait aussi pour l'ancien négociateur du Brexit de répondre à la menace grandissante de voir son gouvernement tomber. Ces prochains jours, la musique de la censure est devenue trop forte. Il fallait qu'il parle, glisse à un conseiller gouvernemental. Pourquoi c'est vachement intéressant ça? Parce qu'en fait, ce qui est en train de se... La petite musique politique du moment, c'est que cette motion de censure, elle risque de se faire. Et effectivement... Ce gouvernement, il risque de tomber. Voilà. Le Premier ministre a tenté de faire résonner un écho contraire en disant « Oui, des mesures d'urgence pourraient être prises en cas d'absence de budget. Hein, » C'est ce que dit l'opposition pour dire « Ah, c'est pas très grave si le budget n'est pas voté. » Mais rien qui n'empêcherait la crise. Et là, il parle plutôt de la crise vis-à-vis des marchés financiers. Tout en pointant une nouvelle fois l'alliance improbable mais possible des voix de M. Mélenchon et des voix de Marine Le Pen, puisque pour que la motion de censure passe, il faut que les voix de l'extrême droite et les voix de LFI coexistent, hein, c'est comme ça. Sinon, ils n'ont pas assez de députés. Et aussi celle du Parti Socialiste et des Verts, nécessaire à le faire chuter. Une manière d'essayer de responsabiliser les uns et les autres sur un attelage dénoncé comme étant contre nature, alors que Marine Le Pen a accusé Michel Barnier, en début de semaine, de rester campé sur ses positions. Marine Le Pen a manifestement décidé d'avoir la tête de ce gouvernement, hein, et a dit la politique ne nous voit pas du tout. Alors, Barnier a essayé d'envoyer des messages en direction de Marine Le Pen en disant si, regardez, on fait des efforts. Par exemple, Marine Le Pen a fait de l'augmentation du prix de l'électricité une ligne rouge, qu'à cela ne tienne. Michel Barnier a rappelé que le prix de l'électricité allait bien baisser de 9% pour une majorité de concitoyens et qu'il souhaitait voir si on pouvait faire plus encore pour le pouvoir d'achat des Français. Voilà. Michel Barnier a promis également d'autres économies, moins 4 milliards d'euros sur le fonctionnement des ministères, 2 milliards d'euros d'économies sur les agences de l'État ou encore la possible taxation des cessions d'actions, autre mesure appelée de ses voeux par Marine Le Pen. Michel Barnier qui dit à l'extrême droite, ne nous censurez pas parce qu'on prend des mesures qui vont un petit peu dans le sens de ce que vous réclamez. Sauf que la petite musique du moment, c'est qu'il n'est pas impossible que ce gouvernement tombe. Voilà. C'est ce que pense le président Macron, notamment, Article juste en dessous. Macron et les siens anticipent une chute de Barnier. Le président ne cache pas en privé ses inquiétudes sur le sort du gouvernement. Voilà. Non. Parfois, il y a des messages que je ne lis pas parce que c'est de la désinformation. Alors, raconter, se tromper volontairement sur les chiffres pour faire de l'humour, c'est intéressant, mais dans une émission qui parle d'information, c'est un peu problématique parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça premier degré et dire « Ah, j'ai lu dans le chat de Samuel Etienne que… » Voilà. Donc, du coup, il y a des messages que je ne relève pas. Je pense que la personne qui vient d'écrire ce message comprend ce que je veux dire. Macron, ce lundi midi, après avoir remis les insignes de la médaille de commandeur de la Légion d'honneur à son ancienne première ministre Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, en privé, devant des fidèles parlementaires et anciens ministres, aurait dit, c'est pas une déclaration publique, conditionnelle, sans détour, le gouvernement va tomber. Voilà. Hop. Hop. Je vous montre un petit peu le son. Allez. Voilà. Va tomber. Voilà. Mais, alors, propos démenti par l'Élysée, Rouliot. Ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ces... C'est dit par l'article, d'ailleurs. Propos démenti par l'Élysée officiellement. Selon lui, la présidente des députés RN pourrait mettre sa menace à exécution dès les prochains jours à l'occasion des votes sur les différents budgets. Alors, que penser de ça? Le Parisien a contacté plusieurs personnes qui étaient présentes à cette remise de décoration à Elisabeth Borne et plusieurs personnes, anciens ministres, parlementaires, proches de Macron, ont confirmé, donc plusieurs sources, c'est ce que dit le Parisien, que le président Macron a tenu ses propos. Bon, donc on peut dire que cette information, elle est probable, mais elle n'est pas avérée, puisque ce n'est pas une déclaration officielle. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, c'est pas parce que l'Élysée dément qu'il ne l'a pas dit. Je pense que vous aurez compris. Marine Le Pen, pourquoi elle voudrait voter la censure? Pourquoi elle voudrait voter la censure? C'est un petit article dans le Parisien là-dessus. Le RN plus proche que jamais d'actionner la censure. Le parti de Marine Le Pen est en train de préparer les esprits aux conséquences qu'il minimise d'un budget qui ne serait pas adopté. Puisque si motion de censure, pas de budget. Afin de rassurer l'opinion en cas de chute du gouvernement Barnier qui ouvrirait une crise institutionnelle inédite, Marine Le Pen s'est fendue, c'était mardi dans le Figaro hier, d'une tribune pour assurer qu'il n'y a pas de risque de shutdown dans l'américaine. Vous savez, quand il y a un risque aux États-Unis de ne même pas payer les fonctionnaires. Même en cas de censure, l'impôt serait levé, les fonctionnaires payés, les pensions versées, les soins médicaux remboursés. C'est vrai et pas tout à fait. On va se pencher sur ça dans un instant. C'est ce que dit Marine Le Pen. Voilà. Alors, c'est vrai. Salut Mystérieuse. C'est vrai, c'est pas tout à fait vrai. Article du Monde. Alors, qu'est-ce qui se passerait en cas de censure et de France sans budget? Est-ce que c'est gravissime? Les gens qui disent que ça va être une catastrophe, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il va rien se passer? C'est pas tout à fait ça. Face à la menace de censure, dit Le Monde, le risque d'une France sans budget, alors que la gauche et le RN n'excluent pas de faire tomber le gouvernement, le pays se retrouve dans une incertitude inédite. Ça, c'est vrai. Et y aura-t-il un budget à Noël? Se demande Le Monde. L'hypothèse d'une motion de censure qui ferait tomber le gouvernement Barnier dans les prochaines semaines et laisserait la France sans budget pour 2025 commence à être prise très au sérieux. Témoin le frisson lundi sur les marchés financiers, devant les turbulences politiques, les banques réclament de toucher des intérêts plus élevés pour prêter de l'argent à l'État. Bon, ça, on peut le regretter. Oh là là, les méchants investisseurs internationaux qui nous prêtent de l'argent, mais plus cher, parce qu'ils n'ont pas tellement confiance dans la situation politique, économique française. Bon, on peut le regretter, mais ils n'en ont rien à foutre, évidemment. C'est pas... Vous pensez bien que la critique de l'électeur français ou du viewer français sur le comportement des marchés internationaux, ils n'en ont rien à carrer, hein, comme dans leur première chemise. Évidemment, on est dans le monde de la finance. Voilà, c'est comme ça, ils ont moins confiance, ils nous prêtent plus cher. Ça, c'est une info, c'est pas une analyse. L'écart entre les taux demandés à la France et l'Allemagne pour un prêt à 10 ans est son plus haut niveau depuis la mi-juin. Il n'était que de 0,5% avant la dissolution. Il est désormais de 0,83%. Il est monté jusqu'à 0,83%. Voilà. La France doit désormais payer plus cher que le Portugal et l'Espagne. Ok. Hein? Et se rapproche du niveau imposé à la Grèce et à l'Italie. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. On prend le risque d'un scénario à la grecque. Merci beaucoup Bubu, merci Julien, merci à tous les deux. On prend le risque d'un scénario à la grecque, a mis en garde le porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, en soulignant le risque de crise financière comme en Grèce au début des années 2010. Ça, c'est un peu exagéré. Vous voyez ? Alors, à chaque fois, j'essaie de vous dire ce qui est un peu exagéré. Les gens qui disent « il ne se passe rien », c'est faux. Les gens qui disent « on va connaître la situation qu'a connue la Grèce dans les années 2010 », c'est faux aussi. Pourquoi ? Parce que on n'est pas... La Grèce, c'est quand même la crise financière grecque, c'est quand même quand le premier ministre de l'époque dit aux Grecs et au monde entier « bon, les gars, je viens de faire un audit des finances du pays. En fait, les gouvernements précédents vous ont... Voilà, la Grèce a menti. Arma, tu as raison. Les gouvernements précédents vous ont caché l'ampleur de la dette. On a une dette gigantesque. C'est-à-dire, subitement, les Grecs et les marchés internationaux, ceux qui prêtent de l'argent, découvrent que la dette grecque, elle est énorme. Voilà. Et là, c'est la panique. C'est la panique. Bon, alors, du coup, voilà, là, pour le coup, il n'y a plus de budget, il n'y a plus d'argent, on ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne peut plus payer les retraites. L'Union européenne vole au secours de la Grèce, mais en disant, par contre, on va mettre des conditions, parce qu'on veut bien vous filer de la thune, mais va falloir nous remettre tout ça en ordre. Et là, il y a évidemment une politique d'austérité qui est demandée à la Grèce. Et là, ben, du coup, en termes de pouvoir d'achat, en termes de retraite, en termes de traitement des fonctionnaires, ça a été très compliqué pendant des années. Aujourd'hui, la Grèce est à peu près sortie d'affaires, mais ça a été très, très compliqué. Voilà. La France n'est pas dans cette situation. La dette de la France n'est pas cachée. Première chose. Deuxième chose, too big to fail, disent les économistes. C'est-à-dire que l'économie française, sans faire injure à nos amis grecs, c'est pas l'économie grecque. L'économie française, c'est une des plus grosses économies de la zone euro, hein, avec l'Allemagne. Si demain la France part en crise et en banqueroute, elle entraîne toute l'Europe avec elle. Voilà. Too big to fail. Donc personne n'a intérêt à voir la France partir en crise financière, en crise économique, en crise bancaire. Idem pour l'Allemagne. Too big to fail. Voilà. Et donc ça veut dire que il est sûr que l'Union européenne viendra à notre secours. Voilà. Mais là aussi, en nous imposant des politiques d'austérité, forcément. On ne va pas nous prêter de l'argent comme ça. Voilà. Comme Maud Bréjon dit, on va connaître un scénario à la grecque. Non, c'est pas sûr. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ceux qui disent il se passe rien, moi souvent dans le chat je vois des trucs comme la dette c'est pas grave, hein, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à l'écrire. La dette c'est pas grave, la dette d'un pays c'est pas comme la dette d'un particulier, on la rembourse pas vraiment, en fait on la rembourse jamais vraiment, en fait on peut emprunter autant qu'on veut, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Dites ça aux grecs. Si, c'est à dire qu'à un moment les gens qui vous prêtent, ils vont pas venir comme un particulier chez vous, toquer à la porte, vous envoyer les huissiers. Personne ne va envoyer les huissiers à la France en disant, maintenant, ouais. Bon, alors, attendez, vous voulez pas payer ? Ok, la télé, c'est à moi. Donc, alors, du coup, ce sera pas la télé de la France, ce sera, le SNCF, je prends, Air France, je prends, vos stocks d'or, je prends. Personne ne va nous envoyer un huissier. Par contre, voilà, ce que vont faire les investisseurs internationaux, c'est qu'ils vont plus nous prêter. Ils ne vont plus nous prêter. Ou ils vont nous prêter un taux de fou. Voilà. Elle est là, la crise. Donc, les gens qui disent d'avoir de la dette à un niveau stratosphérique, ce n'est pas grave. Bah si, c'est grave. Voilà. On continue. C'est bien, je fais peur à tout le monde, c'est super. On fait de la politique maintenant parce que tu dis c'est une position politique. Tout est politique, Kaiser. Tout est politique. Chaque mot d'actualité est politique. La politique, c'est le bien public, c'est comment on gère les affaires du pays. Chaque mot est politique. Les gens qui disent « Ah, mais moi, je veux un discours objectif sur la politique », ça n'existe pas. Voilà. Chaque expression d'un fait d'actualité, c'est de la politique. Hein. Au travers des filtres qui sont les miens, au travers des filtres qui sont les vôtres, ma culture, mes valeurs, mon parcours, mes idées, mes opinions. Donc, ça n'existe pas l'objectivité. On est tous extrêmement subjectifs. Voilà, les pires voyous, les pires menteurs, c'est les gens qui vous disent « Mais moi, je suis objectif ». Quelqu'un qui commence une phrase en vous disant « je suis objectif », c'est déjà un menteur. Il est subjectif, hein, en fonction de sa nationalité, de son histoire, de son parcours, ses valeurs, ses études, ses rencontres, ses lectures. Voilà. Quelqu'un qui vous dit « attendez, moi je vais vous dire la vérité, je suis objectif », bon, vous savez déjà qu'il vous ment. Il est subjectif, comme tout le monde est subjectif. Je préfère la subjectivité assumée, voilà, en vous disant « voici l'analyse que je fais, moi, de l'actualité ». Voilà. Et par contre, elle peut être erronée, Hein, c'est-à-dire que moi, c'est mon analyse avec mes connaissances de l'actualité que je fais, mais je peux complètement me gourer. Vous pouvez discuter cette analyse, m'en proposer d'autres, voilà, et opposer nos différentes subjectivités d'analyse d'actualité. Voilà. Mais en revanche, les gens qui me disent « Ah, mais ça, c'est de l'analyse, c'est pas objectif, ça, je m'en carre le cul pour dire les choses. » Ça, ça n'existe pas, l'objectivité. Voilà. On peut, en revanche, accepter la subjectivité de l'autre. On peut dire « Ah oui, alors, ton analyse, elle est intéressante. Toi, tu ne penses pas la même chose, on part des mêmes faits, mais toi, tu penses que... » Ça, c'est intéressant. Ça, c'est beaucoup plus honnête. Voilà. Mais les gens qui vous disent « Attendez, t'es pas objectif, là. » Bah non, personne n'est objectif. Évidemment. Il faut dépasser ça, il faut aller un peu plus loin. Quoi. Voilà. Par contre, il faut s'écouter. Merci, mystérieuse. Mais non, les faits ne sont pas objectifs, parce que les faits, ça n'existe pas, électron. Je vais l'expliquer, je vais plus loin. Les faits, ça n'existe pas. Les faits, c'est dans un monde intellectuel parfait, où les faits ne passent pas par le filtre, le tamis de l'analyse. À partir du moment où quelqu'un, un humain, hein, ce n'est pas un ordinateur, à partir du moment où un humain analyse des faits, c'est-à-dire les commente, les répercute, eh ben en fait, qu'on le veuille ou non, ces faits vont passer par son regard, ses mots, ses valeurs. Et même la personne qui va vous dire « Mais moi, j'analyse les faits de façon objective », en fait, non, il est totalement subjectif. Totalement subjectif. Donc, les faits existent, sauf qu'à partir du moment où c'est qu'un humain se penche sur les faits, ben, il va t'en proposer une lecture. Il va dire « Ben, c'est grave, c'est pas grave. » Vous comprenez ? Non, les faits, pas les fesses. Les fesses, autre chose. C'est un autre débat. Donc, je peux dire que la dette, on s'en fout. Bien sûr. Bien sûr, Kaiser. On s'en fout. Tu as droit de le dire. Voilà. Et moi, j'ai le droit de te dire que je pense que tu fais une erreur. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Alors, du côté de l'opposition, on dit c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va voir ça dans un instant. On en est où ? Voilà. Donc Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, dit c'est une catastrophe. Et du côté de l'opposition, on dit exactement l'inverse, bien sûr. Hein? Alors c'est les mêmes faits, hein? C'est exactement les mêmes faits, mais le gouvernement dit ça va être une catastrophe et l'opposition dit non, pas du tout. Voilà, des faits, deux analyses. Qui est objectif, là? Qui est subjectif? Alors selon votre sensibilité politique, vous allez dire, ah ben le gouvernement, il n'est pas objectif. Ou alors vous allez dire, ah ben l'opposition, vous racontez n'importe quoi. Mais ça, c'est vous qui voyez, c'est pas mon problème. Il ne faut pas céder à la petite musique consistant à dire si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos. Qui dit ça ? Marine Le Pen. Marine Le Pen dit, c'est pas grave. Éric Coquerel, insoumis, qui je crois est le président de la commission des finances de l'Assemblée, dit c'est pas très très grave. Voilà. Éric Coquerel se veut rassurant, même si aucun budget n'est adopté, il n'y aura pas de shutdown, il n'y aura pas de chaos, il n'y aura pas de catastrophe, dit Éric Coquerel. Donc pour le coup... Le Rassemblement national et la France insoumise ont la même analyse de la situation. C'est peut-être pour ça qu'ils vont voter ensemble, d'ailleurs. Voilà. Salut, Défécator. Si le gouvernement chute sur le texte du budget de l'État le 20 décembre, la France se retrouverait sans budget pour l'année suivante. Ben, un saut dans l'inconnu, dit un député Renaissance qui s'appelle Mathieu Lefebvre. Alors, c'est pas vrai. Merci. Oh, merci Joe. Joe Coco qui fêtait son anniversaire. En début de semaine, ça va, Joe ? Un concert vu de presto ce matin. Je le fais à la maison, comme ça je vais MVP après. Ça va le dé ? Voilà. Vous, n'hésitez pas, hein, même si on est un peu en retard, n'hésitez pas à souhaiter un bon anniversaire à Joe. N'hésitez pas à suivre sa chaîne aussi, Joe Coco. Peut-être que les modos que j'embrasse pourraient l'épingler pour fêter un bon anniversaire à Joe qui vient de fêter son birthday. Alors, quand ce député macroniste dit « c'est un saut dans l'inconnu », ça n'est jamais arrivé, c'est faux. C'est déjà arrivé. En partie. 1979. Merci pour le bon anniversaire à Joe. Le 24 décembre, le Conseil constitutionnel avait censuré le projet de loi de finances pour 1980 que Raymond Barre, à l'époque, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, avait fait adopter, sans vote, mais sans respecter la bonne procédure. Donc il n'y avait pas de budget. Le budget n'avait pas été voté. Hein ? Voilà. En urgence, pour éviter que tout ne s'arrête, le gouvernement avait fait quoi ? Il avait alors déposé un projet de loi tenant en deux courtes phrases, voilà, et l'autorisant à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants en attendant un nouveau budget en bonne et due forme. Okay ? Donc aujourd'hui, l'opposition dit, bah, vous voyez, on va faire comme en 79, ils ont pris le budget de l'année d'avant. Voilà. Et donc, vous avez sûrement entendu ça dans les commentaires politiques, les gens qui vous disent bah, c'est pas très grave, s'il n'y a pas de budget, on prend celui d'avant, ni vu ni connu, je t'embrouille, tout va bien. Et là, le monde dit bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, si c'était passé en 79-80, c'était que par décret, on avait ouvert des crédits calés sur l'année précédente, afin notamment de payer les fonctionnaires. Hein. Le Conseil constitutionnel avait validé cette solution imprévue. La nouvelle loi de finances avait ensuite été adoptée à très grande vitesse et publiée le journal officiel le 18 janvier. Voilà. Et là, le monde dit, sauf que ce n'est pas la même chose. Sauf que ce n'est pas la même chose. Si le budget pour 2025 est rejeté, cet épisode de 79 a toutes les chances de servir de jurisprudence. C'est-à-dire que on votera ce mini-texte très rapide en deux phrases en disant, bah, c'est pas grave, pour pouvoir payer les fonctionnaires notamment, on va ouvrir des crédits calés sur l'année d'avant. Voilà. Et c'est l'argument qu'évoque le RN et la France Insoumise pour assurer l'opinion. Voilà. Marine Le Pen dit, si ce budget ne passe pas, c'est le budget de l'an dernier qui s'appliquera. Vous avez sûrement entendu ça, je l'ai lu aussi dans mon chat, des gens qui m'ont dit, ah mais arrête de nous parler du budget Samuel, on s'en balèque, s'il n'y a pas de budget en 2025, on pourra sauver l'année d'avant, et puis c'est tout. Quoi. C'est ce que dit Marine Le Pen aussi. Sans budget, est-ce qu'on éteint la lumière? Bien sûr que non, professe également Éric Coquerel, l'insoumis. Et le monde nous explique. La situation serait plus compliquée qu'en 79. Reprendre le même budget d'une année sur l'autre se révèle en effet intenable au-delà de quelques mois. Pour quelques jours, ce n'est pas un problème. Pour quelques semaines, à la rigueur, ce n'est pas trop un problème. Mais le monde nous dit, le problème, c'est que, vu la division politique actuellement en France, vu l'éclatement des formations des partis à l'Assemblée, eh ben, il est absolument pas sûr que dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, on trouve une majorité pour voter un budget, ou pour ne pas censurer un budget qui passerait avec le 49-3. Voilà. Et un budget comme ça, qui serait le budget de l'année précédente sur plusieurs mois, ça ne marche pas, nous dit le Monde. C'est analyse du Monde. Hein. Voilà. Reprendre le même budget d'une année sur l'autre se révèle en effet intenable au-delà de quelques mois, ne serait-ce que parce que la rémunération des fonctionnaires augmente mécaniquement du fait du vieillissement, du fait de leur avancement. Donc en fait, le traitement des fonctionnaires globalement augmente, mais par contre, on n'a pas voté les recettes qui allaient avec. Voilà. Explosion de la dette. Or, pour sortir de l'ornière, il manquerait deux éléments qui avaient permis de surmonter rapidement la crise de 79-80. Un gouvernement de plein exercice et un projet de budget accepté par une majorité de députés. À l'époque, il y avait une majorité, donc en fait, bon, bah, là, le budget, il avait sauté. Mais dans les jours, les semaines qui ont suivi, on en a voté un très très vite. Aujourd'hui, vous savez qu'on n'a pas cette majorité. Voilà. On est d'accord sur rien. Ici, la France se trouverait non seulement sans budget promulgué, mais aussi sans texte de rechange susceptible d'être validé par une majorité aujourd'hui introuvable. Autant dire qu'un tel rejet simultané du gouvernement et de son budget ouvrirait une période d'incertitude inédite qui ne pourrait qu'accentuer la défiance des investisseurs dont je parlais tout à l'heure. Voilà. À vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette analyse. Au contraire, ça m'intéresse. C'est pas la mienne, c'est celle du monde. Avec des arguments, par contre. Hein. Pas avec des « c'est faux, Samuel, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord ». Avec des arguments. Je veux bien qu'un blocage, me dit Val, pendant plusieurs mois est un risque, mais donc il ne faut rien faire. Les députés sont obligés de dire oui alors qu'ils ne sont pas d'accord, c'est un peu facile. Je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Ça, c'est de la politique. Voter la censure contre un gouvernement et refuser le budget, je pense que c'est évidemment que c'est un droit de l'opposition, mais je pense qu'en le faisant, il faut s'assurer, que après on a une solution, quoi. Donc après, on a eu une solution pour voter un autre budget. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, le paysage parlementaire nous garantit qu'on va trouver une majorité pour voter un autre budget? Je pense que vous avez la réponse à cette question, quoi. Possible de passer le budget par référendum? Non, je crois pas. Non. Ce sera encore plus le bordel. Salut Maniac. MVP, c'est à tout à l'heure à 12. Ça va être trop bien. C'est surtout qu'à la... Bébé Cali, bordel. Bébé Cali dit, c'est surtout qu'à l'Assemblée, ils ne font pas leur travail pour trouver une majorité, on devrait les virer. Alors, sur le coup, j'ai voulu dire que tu disais n'importe quoi, et en fait, non, c'est pertinent ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas virer les députés, ils ont été élus par les Français, l'Assemblée nationale. Mais en fait, vous comprenez rien à rien. Le séditieux qui dit attention, tu es presque en train de donner ton avis. Ici, on fait deux choses. On lit l'actualité et de temps en temps, je donne mon avis. Mais je vous dis à chaque fois que c'est mon avis. Écoutez bien les mots. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes d'accord, pas d'accord. J'ai le droit de dire mon avis. C'est ma chaîne. Vous avez le droit de vous en foutre. Parce que c'est votre libre arbitre. Mais je ne sais pas ce qui m'interdit de donner mon avis sur ma chaîne. Hein ? Justement, je travaille pas pour un employeur. Là. Je travaille pour moi. Donc, j'émets mon avis. J'essaie de le distinguer des faits. J'essaie de ne pas vous avoir en vous disant bah, ça, c'est des faits. Voilà, c'est pas contestable. Voilà, et ça c'est mon avis, je sépare les deux choses et je vous dis pas des choses, j'essaie d'éviter de vous rapporter des informations en vous disant pas que c'est mon analyse, en vous disant bah ça c'est incontestable, voilà, j'essaie de séparer les choses, mais par contre je dis ce que je veux, c'est mon avis, c'est ma chaîne, voilà, donc confondez pas tout, évidemment je donne mon avis en permanence, c'est ma chaîne, hein, bordel. Donc quand Bébé Cali dit faudrait virer les députés, non, les députés c'est le fruit d'une élection législative démocratique avec des règles respectées, c'est l'expression du vote des Français, on va pas les virer, voilà. En revanche, oui, il y a une responsabilité parlementaire, c'est-à-dire que en France on a un système politique, celui de la Ve République, où on n'a pas, qui n'est pas un régime parlementaire, et on n'a pas l'habitude par exemple de former des coalitions. Nos députés, nos partis n'ont pas l'habitude de se parler. Ben, c'est pas du tout la cinquième, ça. De se parler pour, quand il n'y a pas de majorité, comme certains de nos voisins européens, comme en Allemagne, par exemple, eh bien, on se met autour d'une table, des partis, je ne sais pas, en Allemagne, les libéraux, les sociodémocrates et les verts, par exemple, qui étaient dans la dernière coalition, bon, sauf que là, elle a explosé parce qu'ils sont fâchés. On se met autour d'une table et on discute parfois pendant des semaines, parfois des mois, pour trouver ce qu'on appelle un accord de coalition, pour gouverner ensemble, même quand on est écologiste, libéraux et sociodémocrates et qu'on n'est pas d'accord sur tout. Voilà. La Belgique connaît bien ça aussi. Voilà. Y a d'autres pays comme ça, hein, des régimes parlementaires comme Israël, etc. Donc, nous, on n'a pas cette culture-là en France. Donc, le séditieux, tu me casses les couilles. C'est fou, ça. Je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à la chaîne, en fait. Je crois qu'il ne connaît pas un petit peu ce qu'on fait ici. Donc, en fait, nous, on n'a pas cette culture-là. Donc, ce qu'on pourrait reprocher, tu avais raison, Bébé Cali, à nos députés aujourd'hui, c'est qu'en fait, face à cette nouvelle situation d'assemblée explosée, où il n'y a pas de majorité. Bon alors, il y a une responsabilité du président Macron qui a dissous l'assemblée au pire moment, voilà, pire dissolution de l'histoire de la cinquième, voilà, c'est vraiment une connerie gigantesque, voilà, ça c'est Macron. Et aujourd'hui, responsabilité, Bébé Cali a raison, des députés qui n'ont pas compris qu'il y avait une nouvelle donne. Non, c'est pas toi, mystérieuse, parce que tu fais des efforts et j'apprécie. Qui n'ont pas compris qu'il y a une nouvelle donne et qu'en fait, qu'il faut inventer une nouvelle façon de faire de la politique et donc, de quelque part, de former coalition. Vous les voyez, vous, les partis se parler, là, pour essayer de trouver de former une coalition pour que ça fonctionne à peu près, qu'il y ait un gouvernement qui ait du budget. Vous les voyez se parler ? Ils ne se parlent pas. Donc, Bébé Cali a raison. Voilà. C'est peut-être ça, la sortie de crise. Elle est peut-être là. Parce qu'en fait, l'Assemblée, c'est le fruit du vote des Français. Et donc ça, on n'y touche pas. Les Français, ils ont le droit de voter pour qui ils veulent. Le vote, il est sacré. On va pas dire les Français, ils ont mal voté. Non, on dit pas ça. C'est, voilà, c'est les Français, ils ont voté comme ça. Donc maintenant, eh ben, il faut faire avec cette nouvelle donne politique. Voilà. Et donc la responsabilité de la situation, elle est partagée. Le président Macron, je pense qu'il a vraiment la pire idée de dissoudre ce qu'il a fait. Bon, maintenant la responsabilité, c'est notre personnel politique doit trouver des solutions à cette situation. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Ils sont payés pour ça. C'est leur boulot, c'est de trouver des solutions. Voilà, c'est leur taf. Voilà. Et Bébé Cali avait raison, ils ne sont pas à la hauteur. Là. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour être un peu optimiste, pour se dire qu'il peut y avoir une sortie de crise. Allez, je finis encore de vous lire là-dessus, puis après, on va voir sur Madame Hidalgo, voilà, qui a décidé de ne pas se présenter un nouveau mandat à Paris. Travail qu'ils ne feront pas. Peut-être, elle fera, mais ils vont être obligés à un moment de se parler. Sinon. À moins qu'il y ait une nouvelle dissolution dans quelques mois quand le président Macron aura retrouvé son droit de dissolution après le cool-down et qu'il va dissoudre et que les Français cette fois vont donner une majorité à un parti extrême droite, gauche, macroniste, droite républicaine, je sais pas, c'est les Français qui décident. Et là si on retrouve une majorité, ben, il n'y a plus de problème, ça fonctionne de nouveau. Ben, mais si on ne trouve pas dans les mois, les années qui viennent une majorité à l'Assemblée pour soutenir un gouvernement, ben, il faut changer la façon dont on fait de la politique en France. Non, c'est dans un instant poulie. Je vous lis. Les députés, ils oublient qu'ils travaillent pour nous et pas l'inverse. Certains, peut-être, Jungle. Peut-être. Ce serait mieux de dissoudre, je pense. Le président Macron n'a pas le droit de dissoudre. Il a un an entre deux dissolutions. Donc, il faut attendre un an entre les deux dissolutions. Sinon, ce serait trop facile, t'imagines. À chaque fois qu'un président aura une assemblée qui ne lui plaît pas, t'imagines. Les Français votent le dimanche. L'assemblée ne plaît pas au président. Le lundi, il dissout. Les Français revotent le dimanche. Le lundi suivant, le président estime que le résultat ne lui plaît pas. Il dissout. Alors, il y a un moment, les Français vont en avoir marre de voter. Et puis à un moment, ils vont... vous imaginez la crise politique, l'enfer. Donc, il y a un cool-down d'un an entre deux dissolutions. Ah ben, attends, maintenant, il y a moins d'un an, parce que la dissolution, c'était il y a quelques mois, bien sûr. Mais il y a un an entre deux dissolutions. Voilà. Ça veut dire qu'en juin prochain, on pourrait revoter ? Oui. Il y a un cool-down d'un an. Voilà. Allez, on parle de politique avec Anne Hidalgo. Voilà. Anne Hidalgo qui a décidé de ne pas se présenter à un troisième mandat. Alors, certains vont s'en réjouir. Je vois depuis tout à l'heure des gens qui sont très heureux de ça. Et puis là aussi, on va essayer d'être un peu plus fin. Qu'il y a une espèce de... Bon, moi, je ne suis pas un militant d'Anne Hidalgo. Voilà, bon, mais il y a un Hidalgo bashing quand même qui est très répandu. Voilà. Alors, la question que je pose, c'est est-ce qu'il est mérité ? Peut-être. Hein. Peut-être. Moi, j'ai du mal à me faire un avis sur le sujet. Voilà. Mais essayons de nous pencher sur ce qui s'est passé à Paris pendant ces deux mandats. Voilà. En tout cas, c'est la fin. Le Parisien ne se trompe pas, de l'ère Hidalgo. La maire de la capitale a donc annoncé mardi, c'était hier, qu'elle ne se représenterait pas en 2026. Elle laissera à son successeur une ville profondément transformée. Ça, c'est difficilement contestable. Pour le meilleur ou pour le pire, selon les points de vue, le Parisien essaie de s'intéresser aux aspects positifs et négatifs de ces deux mandats. De vrais choix, et écrit Marie-Christine Tabet dans son édito. Jamais un maire de grande ville n'aura clivé autant, ça c'est vrai, parmi ses administrés. Gérard Collomb à Lyon, Jean-Claude Gaudin à Marseille, Alain Juppé à Bordeaux, même Jacques Chirac à Paris, ou Bertrand Delanoë même, avait réussi cette étrange alchimie de fédérer au-delà des clivages politiques entre deux élections. Hein, parfois, un maire arrive à satisfaire ses administrés, quelle que soit leur couleur politique. Dans les villes, globalement, ça arrive. Hein, parfois, dans les villes, notamment les petites villes, on dit « moi, je vote pas pour la couleur politique du maire, je vote pour Jean-Paul ou pour Sophie parce que c'est un bon, il fait du bon boulot, il a investi, etc. » Souvent, au niveau local, l'étiquette politique n'est pas tout, quoi. Bon, bah, à Paris, c'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, Anne Hidalgo, clairement, n'a pas fédéré au-delà de son camp. Voilà. Ça n'est pas son cas. La détermination des femmes est bien souvent moins acceptée que celle des hommes. Mais il faut reconnaître que cet adepte de la mobilité douce, il n'y a eu guère recours sur le terrain politique. Voilà. Ce qu'on peut dire d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle ne met pas les formes. Elle est assez abrupte, assez cash, assez directe. Voilà. L'objectif principal clairement affiché était de rendre de l'espace aux piétons et de diminuer celui accordé à la voiture, ce qu'elle a fait. Alors on aime ça, on n'aime pas, mais elle l'a fait. Ce programme aura complètement changé la physionomie de la ville, dit le Parisien. Dans un autre registre, la municipalité a développé à marche forcée, le parc des logements sociaux. Certains diront qu'Anne Hidalgo a divisé car elle a fait de vrais choix. D'autres, et ils sont nombreux, reconnaît le Parisien, considèrent qu'elle a façonné une vitrine idéologique, délaissant la voirie, hein, la propreté, même la sécurité parfois, créant une cité pour les touristes que fuient les familles et les classes moyennes. Ouais, le Parisien essaye de souligner ce qui peut être considéré comme positif et ce qui peut être considéré comme négatif dans son bilan. Les dessous d'un départ, déjà, bon, ça, on le verra plutôt dans cette interview qu'elle donne au Monde. Pourquoi ? On va parler de la dette, chouchou, Diesel. Diesel, t'es un habitué, on a lu le premier édito, attends de lire l'article, bordel. Donc on va parler de la dette de Paris, bien sûr. Pourquoi elle part ? On verra ça dans une interview du Monde. Les dessous d'un départ, ce lundi, en donnant rendez-vous au maire d'arrondissement de son camp pour un déjeuner, c'est là qu'elle a fait son annonce. Salut, I'm gros to you, ou vous. Merci Andrea pour le soutien. Merci Cricouillas, je n'avais pas vu. Merci Modeste Thomas. Merci OM Manet. C'est plein de gens que je n'ai pas remercié. Elle a dit, je ne serai pas candidate. Merci Andrea, merci beaucoup. Sans surprise, Anne Hidalgo désigne alors Rémi Féraud, président de la majorité au Conseil de Paris, qui est sénateur, je crois, comme son successeur, selon elle, voilà, elle aimerait que ce soit lui, donc il s'appelle Rémi Féraud. Bon, sauf qu'il y a un autre ancien adjoint de la maire de Paris qui s'appelle Emmanuel Grégoire, qui lui aussi veut être candidat. Bon, ça va être un petit peu compliqué. Le Parisien s'essaye à un bilan de ses 10 ans de... non, pas Cyril Féraud. Rémi Féraud. Ça s'écrit pas pareil, je crois. Voilà. 10 ans de mesure aussi forte que contestée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Anne Hidalgo, à Paris? 2016, exit les voitures sur les berges de la Seine. Voilà. Moi, je connais l'AFP, bien sûr. Bah, sujet polémique à l'époque, il est aujourd'hui ce qui s'apparente à l'un des plus grands succès d'Anne Hidalgo. Plus de voitures sur les berges de la Seine. Voilà. Ça, c'est 2016. 2017, Paris désigné hôte des Jeux de 2024. Bon, ça, c'était une réussite. Après, il faut dire qu'Anne Hidalgo n'était pas super chaud sur les JO. Et finalement, elle a changé d'avis au fil des années. Et bon, globalement, c'était une réussite. Mais pas qu'une réussite d'Anne Hidalgo. C'est pas elle qui a organisé les Jeux Olympiques. Même si elle a participé, bien sûr, à tout ça. 2019, 7 grandes places de Paris changent de visage. Hein. Il y a eu un grand plan de transformation de grandes places, Bastille, Gambetta, Italie, Madeleine, Nation, Panthéon, voilà, qui, à leur tour, ont changé de visage. Bon, on voit que c'est pour une capitale plus humaine, plus de places aux piétons, plus de verdure, moins de voitures. 2021, police municipale parisienne qui naît, il n'y en avait pas avant, voilà. Promesse de campagne, Anne Hidalgo obtient du Conseil de Paris le 2 juin 2021 la création d'une police municipale dotée aujourd'hui de 2300 agents. Certains disent qu'elle a refusé qu'elle soit armée, voilà, mais elle crée cette police municipale. 2022, contrairement à l'une de ses promesses de campagne, elle augmente les impôts, alors qu'elle a dit qu'elle ne le ferait pas. En novembre 2022, le taux d'imposition de la taxe foncière passe de 13,5 à 20,5%, c'est beaucoup. La maire renonce aussi à une promesse de campagne de 2020. Voilà. 2023-2024, les trottinettes en location libre-service, mais aussi les SUV visés. En avril 2023, Anne Hidalgo organise une première consultation des Parisiens qui conduit à la suppression définitive des trottinettes électriques en libre-service. Alors oui, c'était un peu le bordel, hein. Les trottinettes électriques en libre-service, il y en avait partout, c'était un peu la pagaille. Sauf que la consultation, elle est un peu bizarre. Il y a eu une ultra-minorité de Parisiens qui ont voté, que les opposants. Donc le résultat, je ne sais plus, c'était 80-90% de gens qui étaient pour. Bon, le référendum, il était un peu bizarre. Bon, après, c'est vrai que c'était le bordel. En février 2024, les habitants s'expriment en faveur du triplement du tarif de stationnement pour les SUV. Là aussi, la participation était extrêmement faible. Mais voilà, ça a été voté. Le triplement du tarif de stationnement pour les SUV. Mais je ne crois pas que ce soit mis en place encore. Voilà, juste le vote. Voilà. 2024, ça j'aime bien ça. Pourquoi était bizarre le référendum? Parce que personne n'a voté de Mme Sauveur. Voilà. On va voir la participation. Il y avait genre deux mecs qui sont venus voter. Quoi. Non, c'est une catastrophe ce référendum. Il y avait vraiment une participation ridicule. Quoi. Ça a été mis en place? Ça a été mis en place? Je sais pas, j'ai pas de SUV moi. D'accord. Tu as voté? Non, j'ai pas voté. J'étais en stream. Ouais, j'étais sur Valo. Je suis en train de poser Spike. 2024, la première forêt urbaine inaugurée. Planter des forêts urbaines pour verdir la capitale. La première a été inaugurée place de Catalogne, dans le 14e, c'est près de la gare Montparnasse. À la mi-juillet, le 20e, c'est doté du bois de Charonne. Je ne connais pas tout ça. Le chantier de la forêt urbaine du parvis de l'hôtel de ville a été entamé le 16 octobre. Il paraît qu'il y aura des arbres près de l'hôtel de ville. Moi, je trouve ça cool. Voilà. Voilà, merci Poulidor qui me donne les infos. 103 000 personnes ont voté à 89% contre le maintien des trottinettes. 103 000 personnes. Il y a combien d'électeurs, nombre d'électeurs à Paris? Tu vas voir, tu vas halluciner quoi. Dinguerie ça. Combien d'électeurs à Paris? Parti du Parisien. Ah! Oh
votre ordinateur a signalé qu'il était infecté par un virus ou un logiciel.
Mais ouais, bien sûr!
Les informations suivantes ont été volées.
Mais ouais! Bien sûr, vous ne faites pas voir, c'est de la merde.
Connexion au compte email astérisque photo stocké sur l'ordinateur appelé dans les 5 minutes pour éviter que l'ordinateur ne soit éteint. Grâce à un processus, les ingénieurs vous aideront en ligne. Si je ferme la page, l'accès à l'ordinateur sera désactivé pour éviter d'endommager davantage le réseau. Votre ordinateur a signalé qu'il était infecté par un virus ou un logiciel espion. Les informations suivantes ont été volées, identifiant Facebook, détail de la carte de crédit, connexion au compte email, astérisque, photo stockée sur l'ordinateur appelé dans les 5 minutes pour éviter que l'ordinateur ne soit éteint grâce à un processus. Les ingénieurs vous aideront en ligne. Si je ferme la page, l'accès à l'ordinateur sera désactivé pour éviter d'endommager davantage le réseau.
Sur la CB, bien sûr.
Votre ordinateur
c'est le vieux scan de 2020, c'est un vieux machin. Ça. C'est une arnaque, en fait, il ne faut pas cliquer, bien sûr.
Les informations suivantes ont été volées.
Ah, le Altaïka ne marche pas. En fait, j'arrive pas à prendre la main.
Email, astérisque, photo stockée sur l'ordinateur dans les 5 minutes pour éviter que l'ordinateur ne soit éteint. Grâce à un processus, les ingénieurs vous aideront en ligne. Si je ferme la page,
en fait, je suis pas sur l'écran. Je suis pas sur l'écran.
Pour éviter d'endommager davantage le réseau.
Faut que j'appelle le numéro, vous croyez? Attends, déjà, on va baisser ce son pourri là.
Ou un logiciel espion.
Attends.
Les informations.
Je vous enlève ça là. Je sais que c'est une arnaque. Non, en fait, j'arrive pas à revenir sur l'écran. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon là. Voilà. C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est réglé. Putain, quel ingénieur je suis. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, ne vous faites pas avoir. Hein. Évidemment, ça, c'est un vieux truc. Ça, c'est un vieux truc, ça. Voilà. Ça, c'est un vieux. C'est vraiment des arnaques qui datent de la préhistoire, ça. Voilà. Donc, évidemment, il ne faut pas appeler, il ne faut pas payer. Il n'y a pas de virus, c'est de la connerie. Voilà. Donc, tu quittes Google, quoi, c'est tout. Voilà. Je me remets hop, sur Twitch. Voilà. Donc, du coup, je vous ai remis le son. On était en train de regarder le nombre de lecteurs à Paris. Je suis un peu têtu, moi. Nombre d'électeurs à Paris. Voilà. Bon, bah, du coup, on va aller sur l'INSEE. Hein. Voilà. Alors, le nombre d'électeurs à Paris, les chiffres de l'INSEE. Voilà. Non, c'est Paris, ça? Non! Que à Paris, pas la présidentielle. Il met 48 millions de votants, putain. Ah, c'est à Paris. Voilà. 1 355 000 à peu près. Voilà, 1 300 000. Bon, Diesel, écoute, bordel. Diesel, t'es fatigué ce matin. Non, je te demande pas le nombre de gens qui ont voté. Le nombre d'électeurs à Paris. Voilà. Il y a eu un peu plus de 100 000 votants au référendum sur les trottinettes. 100 000 votants, alors qu'il y a 1 300 000 électeurs. Personne n'a voté à ce truc. Voilà, personne n'a voté à ce truc. C'est pour ça que quelqu'un me posait la question, pourquoi ce référendum il est problématique? Bah parce que voilà, parce que personne n'a voté, quoi. Voilà. Donc il n'est pas très représentatif. Il n'empêche qu'on soit débarrassé de ces trottinettes en location électrique en libre service, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, la manière dont ça a été fait, c'était un peu chelou, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Salut, attends. Salut Dan Blaster. J'espère que tu vas bien. On revient donc au bilan de Madame Hidalgo. Donc il y a les forêts là, qui arrivent un petit peu, voilà, on va aller voir ce qui se passe. Et puis 2024, dernière décision, le périphérique qui passe à 50 km/h. Merci Blue Budget, merci pour le soutien. La vitesse est donc passée de 70 à 50 sur le boulevard périphérique le 10 octobre. La ville veut parvenir à réduire le bruit de la pollution aux abords du boulevard circulaire après avoir réduit la vitesse maximale autorisée à 30 km/h en 2021 dans Paris intramuros. Voilà. Pourquoi elle s'en va, Anne Hidalgo? Le Monde lui a demandé, puisqu'elle a donné une interview. Donc, merci culotte courte, ça fait 7,46% de participation au vote sur les trottinettes. Hein, autant dire que personne n'a voté. Enfin, sauf ceux qui étaient vraiment que les opposants, quoi. Peut-être que si tout le monde avait. S'il y avait plus de Français, de Parisiens à voter, peut-être qu'on serait arrivé au même résultat. Mais du coup, la faible participation, elle fait que c'est difficile de prendre en compte ce résultat, quoi. Pourquoi elle s'en va? Elle dit « Deux mandats étaient suffisants. Je ne me présenterai pas un troisième mandat. C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps. Je me suis toujours inscrite dans l'idée que deux mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements. » Elle estime que c'est assez. Peut-être, elle ne le dit pas, peut-être qu'elle a peur de perdre aussi peut-être la prochaine élection, quoi. Hein? Sur la sécurité, il y a eu une très nette amélioration à Paris, dit-elle, une baisse de la délinquance. Elle dit que le préfet de police de Paris confirme ses propos. Et alors elle dit qu'il reste des endroits extrêmement difficiles, notamment la question du crack, très concentré, le nom du périphérique dans le 19e arrondissement. Voilà. Sur la propreté, elle dit que ça s'améliore aussi, mais c'est un travail de tous les jours qui relève beaucoup de l'incivilité. Dans les endroits très fréquentés, dit-elle, on devrait mettre encore plus de poubelles comme on l'a fait pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà. Donc, elle explique que deux mandats, c'était suffisant. Elle dit que sur la sécurité et la propreté, elle dit ça va. Voilà. Bon, maintenant qu'on a lu cet article sur Anne Hidalgo, moi j'aimerais vous lire. Parce que c'est vrai qu'il y a un Hidalgo bashing qui est très présent, que j'entends, que je vois ici, que j'entends partout. Même dans les rédactions où j'ai bossé, je croisais beaucoup de gens dans les rédactions où je bossais ces dernières années qui étaient très remontés contre Anne Hidalgo. C'est pas ce, voilà, des journalistes aussi qui disent « Oh là là !» Vous, vous en pensez quoi ? C'est à la mode de pas l'aimer, dit Bubu. Barberose, Hidalgo aura fait du bon travail pour améliorer la ville. Non, pas Alain Bashing, Hidalgo Bashung. Oh merde, Bashing. Bien joué, Étienne. Les Parisiens, la vie est vraiment galère, demande Alerouane. Les Parisiens qui ont vécu, qui connaissent Paris depuis longtemps, parce que les Parisiens qui sont arrivés il y a 2 semaines, qui vont dire ah ouais, c'était mieux avant. Hein, les fameux Parisiens arrivés à Paris il y a 2 semaines, ou il y a 6 mois, qui disent oh Paris! C'était mieux avant. Hein? Ouh, la sécurité, la propreté, c'était bien mieux avant. Ben, t'es arrivé il y a 6 mois. Ouh, oui. Bon, là, vos gueules, on n'a rien à foutre de votre avis, vous n'y connaissez rien, quoi. Non, les gens qui connaissent vraiment Paris, quoi. Moi, je vis à Paris depuis 1989. Donc, pour le coup, je connais. Voilà. Je l'ai déjà dit, me dit Diesel, mais il faut féliciter son courage de ne pas s'accrocher au pouvoir. Tout ce qui est moins de voitures, je soutiens, me dit Gabs. Voilà. Je trouve que ma amie Hidalgo a plutôt fait un bon travail, me dit Strangelove. Voilà. On s'en fout, je ne vis pas à Paris. Coucou, t'as raison. T'es pas parisien, donc t'as pas d'avis. Ça, je trouve ça pertinent. Voilà, je ne suis pas parisien, mais j'ai vraiment l'impression qu'Hidalgo, on aime bien la détester, dit New 07. Elle a massivement endetté Paris. La dette a monté sous Hidalgo. Tu as raison, Sigo, ce n'est pas faux. Alors elle dit que ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des engagements de l'État, mais tu, c'est vrai. Ouais. Imo me dit Chobix, j'ai beaucoup aimé les modifications d'Hidalgo sur Paris, mais les seuls défauts, les travaux, mais ça on n'y peut rien. Ouais. J'adore ce qu'elle a fait dans la ville, me dit Oignon Free. Tous ceux qui me disent je suis pas parisien, donc j'ai pas d'avis, respect. Ouais, des gens qui vivent pas là, mais qui ont des avis définitifs sur Paris, j'adore. Ça, je kiffe ça. Je suis belge, mais j'entends qu'elle se fait énormément maltraiter, me dit Lucky. Parfois, je me dis qu'elle doit avoir des nerfs solides. Je suis contente de ce qu'elle a fait, me dit Pépinou. C'était surtout à cause de la circulation en voiture, me dit Jean. Pierre, je l'ai trouvée très clivante, mais pas si mauvaise mère au final, même si pas trop d'accord sur sa ligne politique. J'aime bien parce que voilà, je vois des avis assez tempérés et mesurés, quoi. Ça me plaît, espèce de commu de goutte. Bébé os d'eau. Moi, je trouve qu'elle a pris beaucoup de bonnes initiatives pour rendre Paris aux piétons, aux vélos. Forcément, ça déplaît aux boomers et insatisfaits qui crient plus fort que les autres, mais au moins, elle a eu beaucoup de courage et fait beaucoup de choses. Pareil pour les Parisiens, je pense que c'est plutôt pas mal, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est plus compliqué, me dit Oiseau Tonnerre. Gaga, certains chantiers qui ont été entrepris sont pas mal pour être honnête, mais ça s'est fait au détriment de beaucoup d'autres sujets qui ont été beaucoup moins suivis et qui ternissent son bilan. Ça demande du courage de réduire la place de la voiture en ville, me dit Tri. Buntu, c'est vraiment un sujet qui déchaîne les passions. En même temps, c'est nécessaire pour lutter contre la pollution, le réchauffement climatique et le bruit. Moi, pour le coup, qui suis très sensible au bruit et qui vit dans un appartement qui est sur une allée extrêmement passante avec énormément de voitures, et je déteste le bruit. Voilà, le bruit la nuit, surtout. Et les motos qui pétaradent avec leur... échappements illégaux, ce que j'ai pratiqué en tant que motard à une époque, donc je bats ma coulpe, mais ne faites pas ça. Hein, ces voitures de sport que la loi permet, c'est surréaliste d'ailleurs, de faire plus de bruit que d'autres. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs. Vous savez que, je vous ai peut-être ceux qui connaissent Paris et qui voient passer parfois des Ferrari ou des voitures comme ça, vous les trouvez extrêmement bruyantes, voilà, ben la loi le permet. C'est-à-dire qu'en delà, en dessous d'un certain volume de vente et de production, eh ben elles sont moins concernées que les. Il y a une espèce de tolérance pour le bruit. C'est surréaliste. Ça me choque à chaque fois. Voilà. Donc, eh bien, pour revenir à mon propos, eh bien, ces dernières années, j'ai constaté que le bruit avait diminué dans Paris. Voilà. La nuit, il y a beaucoup moins de bruit. Voilà, moi, j'ai un sommeil qui s'est beaucoup amélioré. Voilà. Beaucoup moins de bruit dans Paris. Et dans la journée aussi. Alors, c'est vrai, quand tu débarques à Paris, tu ne trouves pas que c'est une ville qui est très calme. Mais moi, qui vis à Paris depuis 1989, je peux vous dire que le bruit à Paris, alors, c'est aussi lié au fait qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques et hybrides. Hein. Ce n'est pas que la politique de Dani Hidalgo. Voilà. Donc, et ce n'est pas que l'âge, ce n'est pas que mon audition, si je vous vois. Donc, tout n'est pas à mettre au crédit d'Anne Hidalgo, mais clairement, là, c'est vrai que c'est très agréable. Paris est en train de perdre un peu en décibels. Quoi. Nixolas, je suis arrivé à Paris à 20 ans, j'en ai 35, je trouve que la situation à Paris s'est dégradée, notamment la sécurité dans le métro. C'est pas impossible, ça. En même temps, c'est toujours été bordel, le métro. Très bonne question de Jungle Gu. Elle serait un homme, pensez-vous qu'elle serait autant attaquée? Je pense que c'est une bonne question. Merci Faco, c'était bien avec Billy hier. Bon, je vois plein de commentaires hyper intéressants. Je ne vous lis pas tous, mais merci, merci beaucoup. Comme pour les Harley, c'est légal. Non, Garak, en plus, hein, pour le coup, pour avoir eu ce genre de moto, les grosses Harley avec leur échappement libéré ou semi-libéré, contrairement à ce que tu viens de dire, c'est de la désinformation, c'est totalement illégal. Une Harley, tu l'achètes neuve dans n'importe quel concessionnaire en France, elle est légale. Elle a un échappement légal. Elle fait un bruit légal avec un nombre de décibels qui est contrôlé et qui est sur la carte grise. Voilà. Les Harley avec ces échappements libérés qui font un bruit du tonnerre, là, c'est un changement d'échappement, parfois aussi de la cartographie moteur, et c'est totalement illégal. Voilà. Donc les gens qui réveillent des quartiers à 2h du matin avec leur gros Harley, là, c'est ridicule d'ailleurs, sachez que c'est totalement illégal. Je sais, moi je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai été con. Hein. Moi aussi j'étais un connard. Donc, moi j'ai des motos comme ça, des américaines, des italiennes, où je changeais les échappements pour bien m'entendre, voilà, parce que je trouvais ça joli, puis pour les raisons de sécurité, parce que du coup les gens t'entendent plus. Et du coup, ils t'entendent plus arriver, donc t'es sous les motards, ils disent ça, ils disent « Ah là, mais je fais du bruit comme ça, les automobilistes, ils m'entendent bien et tout. Voilà. » Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que si tu conduis calmement, prudemment, et que tu fais pas le con à moto, comme on fait tous les cons à moto quand on est jeune, t'as pas besoin de faire du bruit. Hein. Voilà. Donc ça, c'est totalement illégal. Ça. Je le sais, je l'ai fait. Faites pas ça, hein, c'est une connerie. Hein. On a le droit de changer, d'évoluer. Bah, mais bon, bah j'ai été con. Hein, j'ai été con. Ça, je fais plus. Donc, c'est illégal. Tu t'es fait attraper? Oui, je me suis fait attraper. Ouais. Je me suis fait arrêter un jour. C'est très rare, mais il n'y a pas assez de moyens, d'ailleurs. Il y a des brigades à Paris équipées de sonomètres. Voilà. Et donc, pas assez, hélas. Parce que ça demande des moyens humains. Bien sûr. Et un jour, je me suis fait attraper par une patrouille de police comme ça, qui était équipée d'un sonomètre. J'avais une italienne, une Ducati noire, qui était magnifique. Évidemment, j'avais un double échappement Léo Vince, là, qui respirait bien, là. Voilà. Les vibrations de la moto faisaient sonner les alarmes de voiture. Le moteur était tellement libéré, je sais pas, ça faisait vibrer l'air. Et je comprenais pas pourquoi, mais j'avais un nombre anormal d'alarmes de voitures qui sonnaient sur mes parcours. C'était les vibrations de l'air, de la bécane qui faisait sonner les alarmes de voiture. Voilà. Donc bon, j'étais très heureux avec cette moto. Elle faisait un bruit magnifique. Et un jour, je me fais attraper par une patrouille qui était stationnée. Et me dit « Ah ben, c'est vous, parce qu'on vous a entendu arriver de loin. Hein. On a... on vous voyait pas, mais on vous entendait bien. Hein. On va faire un petit contrôle sonomètre. » Je dis « Pas de problème. » Voilà. J'étais un petit peu au-dessus. Enfin, très au-dessus. Voilà. Et puis, donc j'ai été obligé de remettre les pots d'origine et de repasser le contrôle. Voilà. Et comme j'étais très rapide, je suis allé au garage tout de suite où j'avais fait les travaux. J'ai mis les pots d'origine que j'avais gardés. Je suis retourné au même poste qui m'avait contrôlé. Et donc j'ai pris l'amende. Mais voilà. Et après, je suis retourné mettre les pots qui faisaient du bruit. Bien sûr, puisque j'étais un petit con. Bah ouais. Vraiment un gros con, quoi. Et voilà, puis on vieillit, on prend de la maturité. Puis à un moment, on se dit, mais en fait, je fais chier tout le monde là avec mes pots là. C'est agressif en fait. Bah, voilà. On a le droit de faire des conneries. Hein. Donc faites pas ça. Ah oui, ouais, le con, ouais. Mmh. Bah ouais. Comme ça. Et on a le droit de changer, on a le droit de penser, d'évoluer, d'essayer de s'améliorer, quoi. C'est scandaleux, oui, je suis d'accord. Mmh. Tu te souviens du nombre de décibels? Putain, c'était énorme. C'était énorme. Mmh. Voilà. Donc, mais à coup de pas. Je fais plus ça. Ouais. Voilà. Tiens, parlons de pollution encore, mais de pollution au... Quelle heure il est? Ça va, il reste trois quarts d'heure. De pollution au plastique. Alors, je vous ai déjà parlé en début de semaine de ce sommet. Merci, Clamakin. Au plastique. En début de semaine, je vous ai parlé de ce sommet mondial. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs. Ah, c'est en Corée du Sud, à Busan. Un sommet mondial qui va essayer de réduire les déchets plastiques dans le monde. Et la production de plastique, ce n'est pas gagné, hein, faut que tout le monde s'accorde. Mais on a un dossier dans la Croix qui est hyper intéressant et qui nous dit où on en est de la pollution en plastique dans le monde. Et c'est une catastrophe.
Mais une catastrophe?
Mais moi, j'ai lu le dossier de la Croix ce matin, ça fait froid dans le dos, quoi. Plastique, l'insidieux poison, réunis en Corée du Sud jusqu'à dimanche, 175 pays tentent de faire aboutir un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique. Urgence, édito dans la Croix. Lisons. L'affaire semble mal partie. Réunis à Busan, en Corée du Sud, j'espère que les organisateurs pourront prendre le dernier train, tout le monde a la ref, les négociateurs de 75 pays sont donnés, 75 pays c'est pas rien, hein. Rendez-vous jusqu'au dimanche prochain, 1er décembre, pour finaliser un traité mondial, hein, pour mettre fin à la pollution plastique. Alors, ce serait la première fois qu'il y a un traité mondial sur la pollution plastique. Voilà. Mm. Non, c'est pas vrai, Gara Campus. Les échappements d'origine de Harley, ils font pas de bruit. C'est pas vrai. Je connais bien le sujet, hein, pour le coup. C'est faux. Je sais, hein, j'en ai enlevé. D'un côté, les partisans d'une ligne ambitieuse et contraignante, qui n'est pas une ligne d'échappement, vous l'aurez compris, dont la France fait partie, qui tendrait notamment à diminuer la production. De l'autre, une coalition emmenée par la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui met l'accent sur le recyclage ou la bonne volonté de chacun. Il y a ceux qui disent, pour réduire la pollution plastique, il faut réduire la production de plastique. Et puis les pays qui ont du pétrole ou qui produisent du plastique, qui sont souvent les mêmes, ils disent non, il ne faut pas réduire la production de plastique, il faut bosser un petit peu sur les déchets et demander à chacun de faire un effort. Vous voyez à peu près les deux lignes, quoi. Évidemment, il y en a une qui est plus efficace que l'autre. Nous, la France, on est du côté des gens qui veulent réduire la production de plastique. En même temps, on n'a pas de pétrole. L'urgence part d'elle-même, dit la Croix, la plus petite parcelle de nos corps. Écoutez ça, moi j'ai halluciné. Merci Sir McCartoon, merci Tayou. La plus petite parcelle de nos corps, y compris nos cerveaux. On en a dans le cerveau. Le moindre recoin de nos océans contient aujourd'hui de la matière plastique. La production a doublé en 10 ans, pourrait tripler d'ici à 2060. Des milliers de molécules chimiques sont utilisées dans la fabrication de plastique dont un quart sont particulièrement nocifs pour notre santé. L'urgence est là, vitale. Il nous appartient d'en prendre la mesure sans plus attendre. Voilà. Ce que l'on sait de l'impact des plastiques sur notre santé, moi j'ai halluciné. L'image diffusée en 2019 par l'ONG WWF, à l'époque, avait marqué les esprits, je pense que vous vous en souvenez, celle d'une carte bleue, trempée telle une tartine beurrée dans une tasse de café, soit l'équivalent de 5 grammes de plastique que nous avalerions chaque semaine, sans nous en rendre compte. Voilà. Si la communauté scientifique s'accorde à qualifier ce chiffre d'exagéré, en vrai, on ne mange pas 5 grammes de plastique par semaine. Hein ? L'ingestion par l'homme de minuscules fragments de plastique à travers son alimentation et l'eau qu'il boit est un phénomène bien réel. Donc, ce n'est pas 5 grammes par semaine, mais les scientifiques disent si, si, si. C'est quand même. Waouh ! Sir McCartoon, qui vient de prendre un 12e mois d'abonnement, vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Merci. Bon, on va dire qu'on fête le million de followers. Merci, Sir. Merci à toi. GG. Merci à toi pour les abonnements offerts à la commune. On sait aujourd'hui que les nano- et microplastiques, du fait de leur très petite taille, pénètrent dans l'organisme. Ils passent la barrière intestinale. Ils passent la barrière hémato-testiculaire. Pas bon, ça. Ah, c'est pas bon, ça. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis contre. Ils passent la barrière hémato-testiculaire. Là, je suis contre. Ouais, c'est pas bon, ça. La barrière placentaire aussi. Voilà. Dit le docteur Pierre Souvet. On en retrouve dans le sang, dans les poumons, dans le foie, un peu dans les reins, et même dans notre tête. Voilà. Comme l'a très récemment monté une étude américaine à partir d'autopsies de cerveau. On a du plastique partout. Dans les coucougnettes, dans le cerveau, dans le placenta. C'est un enfer. Qu'en est-il de l'impact sur notre santé ? Alors, on ne peut rien affirmer pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore assez d'études. Voilà. J'adore le... Et c'est pour ça que j'envoie des confettis dans le chat. On a environ 16 000 composés chimiques utilisés dans la fabrication des plastiques. On sait que 25% d'entre eux sont potentiellement dangereux, comme les phtalates et le bisphénol, qui sont des perturbateurs endocriniens avérés. Voilà. Mais on n'a pas encore d'études. Là aussi, on n'affirme pas n'importe quoi. Sur les effets réels sur la santé. Voilà. On en est encore au stade des suspicions, des doutes, mais des études expérimentales ont commencé à mettre en lumière l'impact nocif de l'exposition à des composants utilisés dans la fabrication du plastique. Voilà. Notamment sur les capacités cognitives. Voilà. En avril dernier, pour la première fois, il y a une étude très sérieuse qui a établi une association avec les maladies cardiovasculaires. Hein ? Le cœur, merci Cardia. Merci beaucoup. Continue. Donc, il y a le plastique qu'on mange, il y a le plastique qu'on boit dans l'eau. Attends, je lis un message. Ok. J'ai un message de quelqu'un qui demandait un unban. Après des propos un peu problématiques. Il y a longtemps. Donc il n'est plus dans le chat, mais il m'envoie des DM quand même. Ça ne marche pas très bien, le ban. Dans l'air qu'on respire, il y a du plastique. Voilà. On ne fait pas qu'avaler de petits fragments de plastique, on en respire. Voilà. On a mis du temps à comprendre que le plastique pouvait autant se dégrader et libérer dans l'air. Hein. Des particules si fines qu'elles pouvaient être transportées à des milliers de kilomètres d'un continent à l'autre, dit une chercheuse. Ces nanoparticules peuvent par exemple provenir de la dégradation du plastique présent dans les pneus des voitures ou à la campagne des matériaux utilisés en agriculture. Elles sont plus nombreuses encore en intérieur, dans nos maisons. Voilà. Hein. En particulier à cause des fibres synthétiques des vêtements et de l'ameublement. Reste à savoir là encore si il y a une menace ou pas pour la santé humaine. Au milieu des années 70, des études épidémiologiques menées en Occident ont montré que les personnes travaillant dans les usines de plastique, donc c'est vraiment au plus proche de la pollution, développaient des problèmes respiratoires et des cancers du côlon. Voilà. Certes, il s'agissait de concentrations bien plus élevées que ce qu'on trouve dans l'environnement, puisque c'est des usines de plastique. Voilà. Mais il faut avoir en tête que les quantités astronomiques de plastique que nous émettons aujourd'hui vont être dégradées en nanoparticules qui vont flotter dans l'environnement d'ici 10 ou 20 ans. On sait que l'obésité, l'infertilité, les maladies métaboliques, l'hyperactivité, les problèmes d'attention, les maladies neurodégénératives ont un lien avec l'environnement. Cela vient-il de ce qu'on ingère, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire ou d'un mélange de tout ça? Une chose est sûre, on prend des risques. Or, ces risques pourraient être diminués simplement en se passant de l'usage de certains plastiques. C'est ouf, non? Hein? C'est incroyable. Voilà. Donc là, sachez que la communauté internationale est réunie en Corée du Sud pour essayer de remédier à ça. Voilà. Force que le Eden Buster pour la colo. Et mais il n'est pas sûr qu'un accord soit trouvé, quoi. Il faut que tout. C'est fou, hein? C'est flippant. Ok. Ça parle beaucoup de fesses hein, ce matin. Vous êtes chaud là? Vous êtes chaud bouillant. Ouais, je vais parler de Trump aussi. Donc, mon hyperactivité à cause du plastique. Peut-être, Monkey. Ouais, c'est un peu inquiétant. Intérim en usine avec du plastique, j'avais les mains et les nez rouges et des démangeaisons horribles. Bah ouais. On va tous mourir. Non, Discord, t'inquiète. J'ai faim. À quand un prochain Iron Man? Oh, Trops, je suis trop vieux pour ces conneries. Si Robot des Terres fait un Iron Man, je m'inscris avec lui. Ça va motiver, mais je fais plus ça, moi. Je fais plus ça. Et Billy, il m'a promis un V1 sur Valo déjà, alors j'attends. Hein. Ouais. J'attends. Oh non, je suis fatigué, moi. Oh non, la diagonale des fous, non. Salut, casquette verte. Oh non, je fais plus ce truc-là. Saint-Aignan, oh non, je fais plus en plus ça. Ah, tain, ça tue la Saint-Aignan. Elle est dure, cette course. Et un triathlon? Alors, c'est quoi un Ironman? C'est un triathlon. Salut, Epsilon. Et coucou à tes potes. L'UTMB, non, j'aurai jamais les points. Il faut des points. Je cours plus du tout. Ah si, mais pour le plaisir, 2-3 fois par semaine, quoi. À la cool, tu vois. Pour l'endurance, le cardio, la capacité respiratoire, la petite détente, quoi. Mais pour le plaisir, quoi. Mais je fais plus les gros trucs, là. Les trucs qui piquent, là. Moi, je préfère streamer, là. Fais un triathlon XS. Bah non, pas un XS. Triathlon XS, tu vas au bout de la rue chercher ton pain, c'est à peu près pareil. Hein. J'en ai fait du XS. Hein. Non, j'exagère, mais bon. Enfin, j'ai une tête à faire du XS. Autant faire un tour du pâté de maison. Hein. Non, sérieux, j'en ai fait du XS. J'ai fait un XS, après j'ai fait un S. Après, j'ai fait un M, mais en fait, c'était à Quiberon, et puis il y avait un S et un M. Donc, j'ai fait le S et le M. J'ai enchaîné. J'ai fait du SM. Non, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait du SM. J'ai fait un S. Après, je suis allé manger une petite part de pizza avec des potes, puis j'ai fait le M après. Ouais. Puis après, j'ai fait 3 Ironman. Ouais. Bah, j'ai fait du SM. Il y a que moi qui ai fait ça ce jour-là. J'ai fait les deux, moi. C'était mignon. Donc, pas faire du S. Non, j'ai pas fait du XS. Bon, à maintenant. Ah oui, on va pas être travail dans un instant parce que j'ai vraiment des trucs hyper intéressants sur notre rapport au travail. Je trouve ça passionnant. Un petit mot de Trump quand même. Voilà, c'est bien un sujet sur Trump. Hein. C'est pas un sujet sur Pascal Pro. Hein. T'as surtout fait du sale. Joli Théo Baldo. Et donc, on va parler de Trump puisque. Arrêtez avec Pascal Pro, je parle de Trump là, c'est une pub, c'est pas un article. C'est fou ça. C'est une pub. Concentrez. C'est fou ça. Attends. Ça, je vais vous reconcentrer moi. Je vais vous reconcentrer. Attends, c'est pas possible ça. Vous êtes vraiment dissipé. Hein. Attends. Voilà. C'est fou, c'est vraiment des gosses. Voilà. C'est bon, comme ça, vous allez vous concentrer. Hop, ok. Voilà. Ça va mieux, là? Comme ça, vous vous concentrez sur Trump. Non, mais c'est juste parce qu'on parle de Trump, pas de Pascal Pro. Donc, comme il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer, je vous parle pas des pubs. C'est une pub pour Europe 1, là. C'est Europe 1 qui a payé pour la pub. Donc, je vous parle pas des pubs dans les journaux. J'aurai un carré. Donc, je vous parle de l'article. Voilà. Trop épaisse, la moustache. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. Donc, l'horizon judiciaire s'éclaircit pour Trump. Putain, je zoome encore, je suis vraiment un bâtard. Merci Marion pour le raid, c'est adorable. Merci VB Fox pour le soutien. Voilà. L'horizon judiciaire s'éclaircit pour Trump. Bon, alors, Trump était poursuivi de partout, sur plein d'histoires, plein d'affaires. Chut, réélu, finito, tranquillou. Et voilà, il aura pas de procès, il sera pas condamné, il aura pas en prison. Voilà. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Dans les échos, l'horizon judiciaire s'éclaircit pour Donald Trump. Le procureur spécial qui a instruit 2 des 4 procédures pénales contre Donald Trump en a recommandé l'arrêt. Voilà. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche va lui offrir un répit, peut-être définitif, sur le front de ses ennuis judiciaires. Inéluctablement, le procureur spécial Jack Smith a reconnu que le président élu était devenu virtuellement intouchable pour la justice fédérale américaine et probablement la justice tout court. Donald, il est innocent. Ah ben non, Théobaldo. Non. J'ai dit qu'il n'allait plus être poursuivi. C'est autre chose. Donc, le procureur spécial a recommandé lundi l'arrêt des procédures visant Trump pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection 2020. Qu'est-ce que c'est de tenter de changer le résultat d'une élection? C'est pas si... Hein? Bon, donc c'est fini. Et pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche, truc qu'on avait trouvé dans son garage. Voilà. Après consultation, le ministère de la Justice a conclu que sa politique depuis le scandale de Watergate en 73, consistant à ne pas poursuivre un président en exercice, jurisprudence, s'applique à cette situation. Voilà. Donc, il y a une jurisprudence basée sur la Constitution américaine qui veut qu'on ne poursuive pas en justice un président américain. Donc, ils disent, on continue. Voilà. Cette conclusion ne dépend pas de la gravité des crimes commis. De la force du dossier de l'accusation, du fond des poursuites. Voilà, c'est de la jurisprudence. Il est président, on ne le poursuit pas. Dans le dossier d'assaut du Capitole, hein, à Washington, la juge fédérale Tanya Chutkan a rapidement entériné les recommandations du procureur spécial d'annuler la procédure. Ça ne préjuge pas d'une éventuelle relance, éventuellement, après le mandat, au terme du mandat. Voilà. Il a dit qu'il voulait virer tous les gens qui l'ont accusé. C'est vrai. Superman, il l'a déclaré. Il a dit qu'il allait virer tous les gens qui... avait cherché à le traduire en justice. Il l'a dit. Ouais. Alors ça ne préjuge pas d'une éventuelle relance au terme du mandat de Trump, âgé de 78 ans. Dans 4 ans, potentiellement, les procédures peuvent reprendre ou pas. Ouais. L'immunité accordée à un président en exercice est temporaire, expirant lorsqu'il cesse ses fonctions, mais l'ancienne procureure Barbara McQuaid se dit, est-ce que dans 4 ans, il y aura une envie, une appétence pour... reprendre les poursuites, c'est pas sûr. Une fois revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump pourrait liquider les 2 procédures. Ah oui, c'est pas fini. Parce que les procédures, elles sont suspendues, mais elles se poursuivent. Sauf que Trump, en arrivant au pouvoir à partir de janvier, il peut décider de liquider ces procédures, voire les enterrer définitivement à titre préventif en se graciant lui-même. Oui, le président américain peut se gracier. Lui-même. Donc, il y a assez peu de chance qu'il soit poursuivi, en tout cas sur ses affaires du passé. Après, s'il refait des trucs qui posent question pendant les 4 ans de la présidence qui arrive, il y a peut-être des choses. Mais il peut se gracier lui-même, c'est autorisé. Voilà, c'est comme ça. C'est les États-Unis. Un ultime obstacle pourrait néanmoins l'attendre à New York avant son investiture, le prononcé de sa peine dans le procès au pénal sur l'affaire concernant le paiement de $130,000 maquis en frais juridiques à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels pour taire une relation sexuelle en 2006 que Donald Trump dément. Il y a un truc qui n'est pas tout à fait terminé. Voilà, bon, c'est les États-Unis. Alors, que dire? Que dire? Ça rigole des US, mais c'est oublié le passé de la France. Dans le chat, dit personne n'oublie rien, personne ne dit pas que nous sommes des anges. Personne ne dit que les Français, c'est mieux. On dit juste que le président Trump, qui avait maille à partir avec la justice, ben, n'est plus poursuivi. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Alors, en France, on n'est pas des saints. Je connais même des mecs en France qui roulent avec des pots d'échappement libérés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est des voyous. On est des marlous. Ouais. Ouais, pareil, en France, ils se font juste plus discrets. Alors, je veux bien entendre qu'il y ait des affaires politiques judiciaires en France, même si la vie politique française s'est vachement assainie par la loi, notamment par l'encadrement du financement des partis ces dernières décennies, mais pour ça, il faut connaître un peu l'histoire de tout ça. En France, on n'a pas de président qui a tenté de changer le résultat d'une élection. Quoi. Bon, alors après... Vous en pensez ce que vous voulez. On n'a pas de président de la 5e, par exemple, qui a pas reconnu avoir perdu. Vous avez des présidents qui ont été parfois tristes de perdre, mais vous n'avez pas de président qui ont dit « Non, non, mais c'est pas vrai, hein, j'ai pas perdu. Hein. En fait, j'ai gagné. Hein. » Et qui passe des coups de fil pour dire « Dis donc, tu vas me changer un peu le résultat dans ton état, là, parce que ça va pas du tout. Il faut que tu me trouves X votes. » Non, ça, on n'a pas ça. Ça, on n'a pas. Alors ceux qui disent « Ah, vous, la France, vous regardez pas la France et tout », là et maintenant ils disent « Oui, pas pour l'instant, mais un jour, oui ». C'est trop mignon. Non, bah non, on n'a pas ça. Ouais. Trump a fait ça ? Bah oui, Epsilon, ouais. En fait, Trump n'a pas été à nouveau élu. Parce qu'en fait, Trump, il a toujours dit « Moi, j'ai été élu il y a 4 ans, on m'a volé mon élection ». Donc en fait, il ne revient pas à la Maison-Blanche, il y a toujours été. Hein. Trump, il a toujours dit « J'ai gagné l'élection, on me l'a volé, quoi. » Voilà. Donc, finalement, pour lui, rien ne change. Voilà, il était un peu dans un placard, mais dans sa tête, il était président. En tout cas, c'est ce qu'il disait, quoi. Voilà. Voilà, c'est son 3e mandat, du coup, exactement. J'adore. Bon, on va finir sur 2 trucs qui sont vraiment cool. Sur... notre rapport au travail. Pour moi, c'est le truc le plus intéressant de ce matin. Voilà. Donc, on va le faire tranquillement. On a un article sur les gens qui travaillent trop au détriment de leur santé, notamment de leur santé mentale. Voilà, ça, je ne connais personne dans ce cas dans mon entourage. Donc, un article dans c'est Les Échos qui est vraiment intéressant, signé de 2 docteurs en neurosciences qui disent « Attention, les gars, les gens qui s'oublient dans le travail, là, c'est pas très très bon, en fait. » Ni pour vous, ni pour les autres. Bon. Et puis, on a un article dans Libération sur la génération Z et sur le rapport au travail de la génération Z. En vrai, c'est vraiment passionnant. J'aimerais votre avis là-dessus. On va faire une mini-pause. Je vais me faire un thé, là. Un petit thé, avec un petit morceau de sucre. Et on parle de tout ça. OK ? Je vous fais une mini-pause. Voilà. Comme j'ai encore été la cible d'une attaque informatique lâche, dans un instant, j'ouvre hop, Google, je vous mets une petite musique. C'est quoi ça ? Attention aux oreilles, attention aux oreilles. Attendez, je baisse. Non, pas ça. Non, pas ça, ça. Ça. Ok ? Ouais, café au lait, balance une pub. Ok, d'accord, je balance une pub. Mais de la musique aussi. A tout de suite, bande de beaux gosses. Voilà. Donc vous allez voir, c'est vachement intéressant les articles qui arrivent. A tout de suite. Merci d'être là. Let's go. C'est pas mal ça, écoutez. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man, do it yourself. What you waiting for, just do it yourself. You don't need no one. Hey, j'ai un petit son que je vous ai mis de côté ce matin. C'est bon, hein? Je vous le remets au début. C'est vraiment sympa, écoutez. Tout de suite. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man, do it yourself. What you waiting for, just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Pick up the skill, I pick up the work. Now they can't say anything, I do it myself. Wanna go somewhere, I take myself out. You run along, take, yeah, no doubt.
Get done, yo, give me a shout. Yeah, you want it sorted, give me a shout. F that vibe, get rid of the doubt. Yo, answers there, well, figure it out. Drop me the video, we'll figure it out. London's fast with bubbles and stout. Old school flows, what you talking about? Late night shows have been running around. From north to south, I've been running around. But I couldn't care less if they talk to me now. Where was you then? We've been sorting it out. For a hot minute, hot second, carving the sound. Layers got layers, you know we get down. No bad vibes here, yeah, that's not alert. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the worth. Now they can't say anything, I do it myself. Do it yourself. Like Doja, yeah, we paint the town red. Thought you was close, I left you one bread in the meeting. Yeah, make note of what I said. If I'm eating, yeah, we're sharing that bread. Get it done, I do it instead. But truth is, I can see inside your head. So I do it myself, don't do it for them. Do it for the family, do it for a friend. Don't wait on anyone, I say it again. All I need is me and my pen. Healing, feeling, yeah, on the men. But seeding, reading every day zen. Tell me, when's the ETA then? Work around the clock like Big Ben. Do it myself, don't do it for them, yeah. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the worth. Now they can't say anything, I do it myself. Do it yourself.
Pas mal, j'ai bien aimé moi. Ça vous a plu? Je me suis mis des petits raps de côté. C'était ok, non? Ça va? C'était pas mal, hein? Ça change un petit peu. J'ai un peu froid. Il y a eu un raid. Ouais, Radio Paillette! Putain, comment ça va, les amis de Radio Paillette? Vous étiez en matinale? Oh. Attends, Radio Paillette, je vais vous montrer. C'est vachement bien. Ah, c'est cool que vous continuez le stream, c'est cool. Hop, je vous montre la chaîne qui vient de nous raid. Voilà, tchouk, regardez, Radio Paillette. C'est la radio qui stream. Mélanie et Ginger, on est d'accord, c'est toujours... Ah, mais ça a changé, vous n'êtes plus lié à la radio? Hein? Avant, vous étiez... Mélanie et Ginger en live le plus souvent possible pour discuter tous ensemble. Ça parle de tout, mais surtout de séries, de bouffe, d'amour, de ménage, de reflex. Avant, vous étiez allé à une radio, non? C'est avec Manu Payet, Nico, tout ça. Et ça a changé ou pas? Parce qu'il n'y a plus la ref à la radio. Ça a changé ou c'est comme avant? En tout cas, c'est une super chaîne. N'hésitez pas à la follow. Moi, je vous follow au moins, j'espère. Ouais, je vous follow. On était sur, voilà, merci Radio Bayette. Oui, on était sur Virgin Radio, je me rappelle, et on continue l'aventure en podcast. Ok, d'accord. Donc, et vous n'êtes plus sur Virgin Radio alors? Vous êtes en solo maintenant, c'est ça? En vrai, GG, en vrai, c'est super. Excusez-moi, je prends des nouvelles de cette chaîne parce que... Merci Tandem, c'est pour le sucre dans le thé. C'est ça, ok, d'accord. Bah, trop bien, bah, bravo à vous. Voilà, je vois que la commu grandit doucement. Ben, j'essaierai de vous donner de la force. Vous streamez, attends, vous streamez quand? Matin? Midi? Soir? Hein, vous me direz? C'est un moyen de faire des petits raids de temps en temps. Ouais, c'est ça, c'est les impôts. Merci au Wim. Ah, merci. Lundi, mercredi et vendredi matin à 10h30. D'accord. Ok. Ouais. Il faut vous streamer. Il faudrait que vous streamiez au moins jusqu'à 12h30, 13h pour que je puisse vous raid là. Trop bien. Merci en tout cas pour le raid de ce matin. Trop gentil. Ça fait plaisir. J'ai kiffé ta petite anecdote hier soir. C'était bien, hein, Ginka. Hein, voilà. Alors maintenant, parlons de travail. Je trouve ça, ces deux articles sont vraiment passionnants. Et après, je vous abandonne pour vous retrouver à midi pour MVP. Je vous rappelle que ce matin, on a une très belle émission Donc il y a un deuxième live à midi. Et en vrai, venez voir, l'émission va être super. Il y a Philippe Catherine en invité notamment. Ça va être incroyable. Hop, je vous montre. Venez, 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 venez. J'en profite qu'il y a des nouveaux viewers qui arrivent avec Radio Paillettes. Voilà. Donc, regardez, regardez ce qu'il y a à midi. Donc MVP, c'est mon émission qui a lieu deux fois par mois. MVP Electrestar, c'est une émission que j'ai lancée à la rentrée qui s'appelle MVP, qui s'appelle Ma Vie Pro. C'est une émission qui explore les voies professionnelles, les métiers, les secteurs, pour que chacun puisse trouver la sienne. Je m'explique. On parle de métiers, on parle de secteurs. Là, par exemple, c'est comment gagner de l'XP dans les études, c'est-à-dire les stages, les alternances, comment trouver un bon stage, comment trouver une bonne alternance. On va faire une émission de 2-3 heures là-dessus. Et donc, j'ai chaque émission, j'ai 3 chroniqueurs, 3 invités. Les chroniqueurs, ben, les voici à droite. Là, vous avez Lorraine Lévy, qui est une spécialiste justement du bien-être au travail, qui est chroniqueuse, qui est créatrice de contenu sur Insta, sur TikTok, qui sera avec nous, qui va nous parler justement des manières de trouver un bon stage, une bonne alternance et au contraire d'éviter les mauvais. Il y a Ludovic B, qui est notre spécialiste métier, qui est là à chaque fois et qui explore un métier à chaque fois. On va parler du métier de boucher aujourd'hui, voilà. Comment on devient boucher, le salaire, etc. Il a une chaîne YouTube, il est super. Et puis il y a Marie Palot, qui est formidable, qui est une amie que j'adore. Et Marie qui va travailler, qui aime beaucoup le Japon et qui revient du Japon et qui a vu comment les Japonais préparaient les petits Japonais parfois très très tôt à des carrières professionnelles, donc c'est assez étonnant. Marie nous parlera de ça et puis on a des invités, on a un invité qui s'appelle l'invité pro, c'est une jeune femme qui est en alternance, enfin non, qui a fini son alternance, qui travaille maintenant dans le secteur médico-social, donc elle va nous parler de l'alternance. On a un invité mystère. Je ne peux pas vous dire qui c'est, puisqu'on va, il faut deviner son métier. Hein, ça, c'est rigolo. Et puis, il y a un invité MVP. L'invité MVP. Et c'est Philippe Catherine. Voilà. Donc, le chanteur, le comédien qu'on adore tous, qu'on a vu au jeu, le petit bonhomme tout bleu. Voilà. Et qui vient, du coup, pour une interview où on va parler de son parcours. Hein, qu'est-ce que vient faire Philippe Catherine dans une émission comme ça? En fait, il va nous parler de son parcours. Pro, puisqu'il a fait des études d'art plastique, il a fait aussi plein de petits boulots dans sa jeunesse pour manger, en fait, pour bouffer. Et donc, en fait, c'est Philippe Catherine qui va nous parler de son parcours pro. Voilà, donc, ça va être top. Donc, ça, c'est rendez-vous à midi, tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et puis, puisqu'on y est, venez vendredi aussi. Vendredi, c'est super important. Il y a le Téléthon Gaming vendredi soir à minuit 5, sur France 2, comme chaque année. 200 streamers, streameuses mobilisés pour le Téléthon. Voilà, une belle émission sur France 2, sauf que cette année, eh bien, elle est diffusée aussi sur ma chaîne Twitch. Donc on sera à la fois sur France 2 et sur ma chaîne Twitch avec le chat que je vais intégrer à France 2. Voilà, et avec Elian Ventre, le streamer qui sera à mes côtés pour un petit peu pour co-animer cette émission. Ça va être génial, je compte sur vous. C'est un peu tard vendredi soir, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, de minuit à partir de minuit 5, on sera ensemble, ça va être très court, ça va être 1h30, donc venez, ça va être une super émission. Vraiment, je compte sur vous, en plus c'est pour une bonne cause. On va essayer de trouver des sous pour la recherche, pour trouver des remèdes contre les maladies rares. Parce qu'on commence à trouver des remèdes depuis quelques années, vous savez, pour guérir les gens qui sont atteints, notamment par la thérapie génique de maladies rares, de maladies orphelines. Il y a eu longtemps, on a cherché, on n'a pas trouvé, parce que c'est des recherches qui demandent beaucoup d'argent. La France est en pointe sur ce sujet, d'ailleurs, avec le généton, tout ça. Eh bien, ça y est, depuis quelques années, on commence à trouver, on commence à soigner. Ça, c'est formidable. Et ça crée beaucoup d'espoir pour les malades, pour leurs familles. Donc, il ne faut rien lâcher. Vendredi soir, Téléthon Gaming sur France 2, sur ma chaîne Twitch. Je vous attends. On parle maintenant de travail. Tac. Avec d'abord ceux qui travaillent trop. Ça ne va pas du tout. Article dans Le Monde, signé de deux chercheurs docteurs en neurosciences, jeudi sur Corbeau, je pense. Santé mentale quand le travail devient addictif. Merci Massisk TV pour le soutien. On constate une tendance de glorification de l'excès de travail, une dévotion totale qui peut être bénéfique à court terme, plus de réussite, le matériel, éventuellement plus d'argent, mais qui aura des effets délétères à long terme. Ambiance délétère. Vous allez passer à la télé, vous allez littéralement passer à la télé. Ouais. Lisons cet article que j'ai trouvé passionnant. Face à un contexte économique en tension, les incitations à la performance ne cessent de croître. L'exemple d'Elon Musk demandant à ses employés lors du rachat de Twitter de choisir entre travailler intensément de longues heures ou partir, sympa, illustre une tendance préoccupante de glorification de l'excès de travail. Pourtant, il existe un effet plafond dans la relation entre l'engagement et la performance. Lorsque la relation au travail devient trop forte, voire addictive, les conséquences sur la santé mentale et sur l'efficacité sont nombreuses. Les work alcooliques, le work alcoholism ou addiction au travail est un concept apparu dans les années 70. Bien qu'il ne soit pas reconnu en France, de plus en plus de chercheurs l'interprètent comme une addiction sans substance, certes, hein, qui impacte bien la santé physique et mentale. Ce rapport excessif au travail se caractérise tout d'abord par sa dimension comportementale. Les personnes accros consacrent plus de temps et d'énergie au travail que ce qui est attendu d'elles. Il repose également sur une motivation intrinsèque très élevée, au-delà de la recherche financière. Ces individus sont portés par un sentiment d'utilité ou un sens du travail très fort. Enfin, on observe la même dimension compulsive que dans les addictions chimiques. Hein. Même loin du bureau, alors qu'elles souhaiteraient s'en désengager, leur esprit reste focalisé sur le travail, créant une boucle sans fin. Les chercheurs, c'est Marie Lacroix et Gaëtan de Lavilléon, hein, pour Hérécide qui pose la question. Hop, je dézoome un petit peu. Selon certains chercheurs, l'addiction au travail reposerait sur les mêmes circuits que les addictions chimiques. Merci Alexandra pour ton message sur le téléthon. Le striatum, responsable de la quête de récompense, et le cortex préfrontal, garant de sa régulation, cesseraient de communiquer de manière normale. Lorsque le travail devient une source de satisfaction immédiate et répétée, ce déséquilibre cognitif favorise la répétition compulsive des comportements, comme un gars qui streamerait tous les jours non-stop, par exemple, pour prendre un exemple. Malgré leurs conséquences négatives sur la santé et la vie personnelle. C'est dans les échos. Une dévotion totale envers son travail peut sembler bénéfique à court terme, mais cela aura des effets délétères à long terme. Voilà. Hein, je sais pas, prenons un exemple, par exemple, d'un gars qui stream tous les jours, deux fois ou trois fois par jour. Voilà. Et je sais pas, il est fou de joie parce que sa communauté vient d'atteindre le million de followers. Bon, le problème, c'est que dans deux ans, il s'écroule. Je pense que c'est ce que veut dire cet article. Le problème, c'est que cette quête effrénée, elle a des conséquences sur la santé physique et mentale. Elle peut provoquer des troubles de l'humeur. Ça, vraiment, je... Hein ? Des problèmes du sommeil. Et une insatisfaction croissante dans la vie... Oh, merci, Diesel. Dans la vie personnelle. Mais ce n'est pas tout. L'efficacité même des personnes accro au travail pourrait être dégradée. C'est-à-dire que tu deviendrais moins bon dans le travail. Difficulté d'inhibition, surcharge mentale, biais d'impulsivité, interaction sociale altérée. Voilà. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, le surengagement peut devenir nuisible à la performance. Tous les salariés peuvent être touchés. Voilà. Certaines études indiquent que 10 à 15% de la population mondiale sera touchée de près ou de loin par ce phénomène. C'est beaucoup, hein. Mais une catégorie doit être observée avec vigilance, celle des dirigeants d'entreprise, bien sûr. Attente sociale élevée, besoin de reconnaissance, stress chronique, capacité réduite à écouter les signes d'épuisement, ces éléments amplifient leur exposition, donc des chefs d'entreprise à l'addiction au travail, les gens qui sont à leur compte de façon générale, hein, tout en rendant plus difficile la prise de conscience du problème. Voilà. Ce rapport excessif au travail, ouais. C'est vrai, Sarah, ça t'inspire. Doit être régulé pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs entreprises et leurs salariés. De manière explicite ou implicite, ils peuvent en effet induire une culture de l'hyperconnexion dans leurs équipes. Donc ça peut avoir des conséquences sur les gens avec qui tu travailles et provoquer des risques pour la santé mentale des salariés, en fait, hein, et pour la performance de l'organisation. Ouais. Parce que tu es exigeant avec toi-même, tu es très exigeant avec les gens avec qui tu travailles, mais si tu vas trop loin, en fait, c'est contre-productif. C'est pas très agréable pour les gens avec qui tu bosses et ça peut être même contre-productif pour l'entreprise. Cette forme d'addiction au travail est une menace invisible. Protéger la santé mentale des dirigeants et leurs équipes, c'est préserver leur capacité à prendre des décisions rationnelles, à innover, à inspirer. C'est pourquoi il est temps de cesser la valorisation permanente d'un engagement total au travail, mais plutôt reconnaître, disent ces deux chercheurs en neurosciences, que le surengagement peut devenir une faiblesse et une limite pour les organisations. Bon, cet article m'a un petit peu parlé. Ouais. Moi, j'ai un rapport au travail qui est un peu particulier. Et je me suis reconnu dans deux, trois petits trucs. Mais certains d'entre vous, je l'ai vu aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Ça peut nuire à l'ambiance de travail, surtout si c'est le manager qui est touché. Bah, tout le monde, ouais. Je suis en plein dans cette situation, me dit Mika Mosca. Notre marketing s'est considérablement réduite, notre service marketing. Nous ne sommes plus que deux, travail du coup intense avec des deadlines impossibles. Aux États, je bosse comme un fou sans regarder les horaires, ça crée des tensions au sein de ma petite famille. Attention, Nika Mosca, parce que c'est, moi je connais ça. Je dors peu car je pense au taf, je suis en recherche intensive d'un autre taf. Ah, il faut que tu sortes de ça, oui. Alors, chercher un autre boulot, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la solution. Mais déjà, tu as déjà trouvé la solution. Vous savez, parfois, il y a des réductions de postes dans les entreprises, dans beaucoup de secteurs, où en gros, on ne remplace pas les gens qui partent et du coup, on demande à ceux qui restent de faire le travail qui était fait par les gens qui sont partis. Donc ça, c'est un enfer. Donc il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Il faut pas, surtout quand ça vous est imposé, dans le cadre du salariat, il ne faut pas imposer ça. Il ne faut pas accepter ça. Alors la solution, c'est de trouver un autre poste, plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Voilà. Mais au moins, Nika Mosca est dans cette recherche. Dans mon entreprise, on nous pousse tous à la compétition, c'est horrible, me dit Étienne LB. J'étais addict pendant les années au travail, je comprends totalement cet article, me dit Charcy. J'ai vécu ça en apprentissage, me dit de Moonbeast. La ligne est très fine, c'est compliqué, c'est vrai ce que dit Andreas. La ligne de crête entre une passion pour un travail, un engagement fort dans le travail et de l'autre côté de la crête, le surengagement qui va avoir des conséquences négatives sur ta vie perso, sur ta santé, voire même sur ta vie professionnelle, la ligne, elle est très, très difficile. Moi, j'essaie d'osciller entre les deux en permanence, quoi. Très intéressant. Je parle en comité de conseil, ça me parle un petit peu. Oui, me dit Waris Charlie, j'ai vécu ça, on ne se rend pas compte qu'on est dans la boucle, mais ensuite on craque, c'est vraiment dur. Créline Bookin. Ouais, moi, j'ai mon épouse qui joue un rôle d'alerte. Moi, je suis excessif dans mon rapport au travail, mais depuis toujours. Donc, parfois, je suis allé très loin, mais je le sais. J'en ai pris conscience. Et du coup, mon amoureuse, elle a la gentillesse et l'intelligence quand je vais trop loin, de me le dire en me disant là, c'est un peu trop. Et elle me dit pas ça méchamment. Hein. Elle me dit ça parce qu'elle sait que tôt ou tard, je vais devenir un gros casse-couille aussi. Hein, parce que forcément, quand on n'est pas bien dans son travail, après, on peut devenir bien chiant aussi à la maison. Voilà. Donc, et ça peut mener au burn-out. Bien sûr, Valentina. Donc, là, quand je fais trop, ben, voilà, par exemple, là, je ne vais pas streamer. Je prends 15 jours de vacances à Noël, là. Ou je vais en famille en Bretagne et puis j'emmène Hélène et les enfants après en vacances. Bon, ben, je crois que je ne vais pas streamer. Bon, eh ben, je le fais. Je le fais de façon réfléchie parce qu'à la base, de ne pas streamer pendant 15 jours, c'est très compliqué pour moi. Mais je le fais parce que je sens que cette rentrée a été très intense. Je ne me suis pas arrêté l'été dernier. J'ai streamé quasiment tous les jours de l'été dernier. J'ai eu une rentrée formidable que j'ai adorée avec plein de nouveaux projets. Mais je sens que la rentrée était un peu chargée, quoi. Donc je fais un petit break en décembre, là. Voilà. Pas parce que j'aime moins ce que je fais, mais parce que je ne suis pas sûr d'aller jusqu'en juin, quoi. Non, c'est pas Hélène et les garçons, parce que le Hélène, ça ne s'écrit pas comme ce Hélène-là. Qualo, cet article me parle beaucoup pour avoir été dans le cas. Par contre, je remarque une forte réaction contre le workholisme chez la nouvelle génération. Est-ce que tu le remarques aussi? On va en parler dans un instant, puisqu'on parle de la génération Z dans un instant, justement, qui est en train d'essayer d'inventer un autre rapport au travail. Je suis en train de vous lire. L'entourage est la clé de sortie avant la rupture. Oui, Icrix. Moi, souvent, c'est mon entourage qui m'alerte. Voilà. Et je l'écoute. Et je l'écoute parce que quand tu es dans cette boucle de travail, d'engagement, surengagement, tu ne t'en rends pas forcément compte. Tu n'as pas envie de t'en rendre compte, d'ailleurs. Tu n'as pas envie de te rendre compte. Parce que, voilà. Parce que t'as l'impression d'être bien comme ça. Mais il faut savoir écouter les proches un petit peu, quoi. Il ne s'agit pas de totalement lever le pied et rien foutre. Hein. Il s'agit de juste, même dans un hyper engagement au travail et une passion pour ce que tu fais, il est 10h54 déjà, et bien de parfois lever un tout petit peu le pied pour que ce soit supportable pour toi et pour les autres. Quoi. Je me dépêche parce que du coup, je vois que dans 5 minutes, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un taxi qui m'emmène à MVP. La génération Z. Hein, donc on va dire les gens, parce que c'est précis, hein, quand on parle de génération X, Y, Z, qu'on parle des boomers, tout ça, c'est des années très précises. Donc, ceux qui sont nés entre 1997 et 2010, eh bien, cette génération Z est en train, globalement, même si évidemment au sein de cette génération, il y a des gens extrêmement différents, il ne faut pas oublier, hein, c'est juste une généralité, d'essayer d'inventer un nouveau rapport au travail. Plusieurs études détaillent une nouvelle conception du travail chez ces jeunes nés entre 1997 et 2010. Pour nombre d'entre eux, pas question de faire passer la carrière avant la vie privée, ni d'intégrer une entreprise qui ne serait pas en adéquation avec leurs valeurs. Le dernier observatoire sociétal d'Ipsos te confirme, sus aux idées reçues, la génération Z, donc 97-2010, ne renverse pas la table du rapport au travail. Ce n'est pas une totale révolution. Hein. Ainsi, les zoomers, il y a les boomers, mais il y a les zoomers, se montrent intéressés par les responsabilités. Ils ne disent pas non aux responsabilités. Par la rémunération, qui reste un critère majeur pour trouver un poste. Voilà. Donc, c'est pas, ils ne renversent pas la table. En revanche, cette génération déplace quelques chaises. Ouais, c'est un midi pile, ouais. Gudush. Elle est plus exigeante. 84% des jeunes, interrogés disent avoir le goût du travail. Une majorité évoque une insatisfaction croissante quant aux perspectives offertes par le monde du salariat. Hors de question de laisser son âme dans un CDD. La stabilité grâce de leurs parents n'est pas davantage un vecteur de motivation. Le CDI, les concours de la fonction publique ne sont plus les tubes de l'été. La Gen Z est surtout la première génération à donner 74% la priorité aux valeurs et aux engagements d'une entreprise dans sa recherche d'emploi. Valeurs, engagement. Elle attend des employeurs qu'ils portent des sujets forts, écologie, diversité, égalité des chances. Il faut refuser de s'engager dans une entreprise polluante et dont le taux d'emploi de travailleurs handicapés serait ridicule, par exemple. Par ailleurs, selon la même étude, 80% des jeunes interrogés estiment également que l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle est important, voire primordial, ça c'est assez nouveau aussi. Loin des injonctions justement à l'ultra-productivité, les zoomers revendiquent le droit à la déconnexion réelle en dehors des heures de travail. Voilà. Hein, ils refusent de sacrifier leurs loisirs au profit de l'entreprise, loin du modèle de leurs parents parfois, qui quant à eux ont souvent immolé les soirées et les week-ends sur l'autel du rendement. Au surplus, le rapport vertical et hiérarchique est devenu pour ces jeunes générations obsolète. Hein, les jeunes actifs maintenant aspire à des relations plus horizontales avec un dialogue constant. Les jeunes ne veulent plus perdre de temps avec un employeur qui ne leur convient pas. Selon une enquête pour LinkedIn réalisée en mars 2023, 81% des déclarants disent qu'ils ont quitté ou sont prêts à quitter leur emploi pour rejoindre une entreprise qui serait plus en phase avec leurs valeurs, ce qui les poussera à en changer plus régulièrement que leurs prédécesseurs sur le monde du travail. A l'inverse, le contexte économique et la précarité de l'emploi, parce qu'il y a ça aussi, pousse certains jeunes actifs à conserver en soupirant des postes insatisfaisants, mais dans ce cas-là, ils vont s'impliquer beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Face aux nouvelles attentes de la Gen Z, au risque de désengagement, de turnover, de nombreux recruteurs tâtonnent. Hein, voilà, comme dit Zanox, qui doit être d'une autre génération, ils connaissent tout, ils savent tout. C'est le fameux discours des vieux comme moi. Quoique moi, je ne tiens pas ce discours sur les jeunes, soi-disant, qui ne veulent plus bosser. Voilà. Donc, effectivement, de nombreux recruteurs tâtonnent. Comment concilier les exigences d'une génération en quête de sens, d'autonomie et de flexibilité avec les impératifs économiques? Les employeurs publics et privés ont déjà compris qu'il fallait hisser haut le drapeau du sens. Hein. LinkedIn a ainsi enregistré une augmentation de 154% des offres d'emploi mettant en avant les valeurs des entreprises dans les petites annonces de jobs. Par ailleurs, le sujet de la qualité, putain, il est 58, de la qualité de vie au travail ne doit pas être traité par un happiness manager en carton dans des places d'entreprises qui pédalent en arrière car elles craignent bêtement la perte de productivité. De télétravail doit rester un levier de flexibilité lorsqu'il permet de reprendre le contrôle de son emploi du temps. Merci Yanis Léris, merci. Faire un peu d'exercice ou écrire, pourquoi pas, un futur roman. Et séduire cette nouvelle génération qui plébiscite même à 58% le télétravail total. Voilà. Bon, je ne peux pas vous lire la fin de l'article, je suis à la bourre, mais globalement, vous avez compris. Voilà, c'est hyper intéressant. Hein. Allez, pardon, je n'avais pas vu qu'il était... le temps passe vite avec vous. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous dans 1 h 1 min pour ceci. Hop, MVP, toujours sur ma chaîne, au même endroit. C'est juste que ça ne se passe pas dans mon studio. Va, je ne te hais point, j'adore. Voilà, on fait un raid. Rendez-vous tout à l'heure, je compte sur vous, ça va être une super émission en vrai. Qui est en live? Qui est en live? Ok. Ah oh bah ok, bah c'est tout. Il y a Elian. Elian Vente qui est mon invité. T'as mon téléphone qui sonne. Elian Vente qui est mon invité. Vendredi soir dans Téléthon Gaming qui est en live. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de ranger son placard. Super raide. Voilà. Attends, Elian, il fait quoi? Discussion, il faut, il est en train de ranger sa chambre. Okay. J'aime cet être humain. C'est le mec le plus gentil de la Terre. On va voir Elian, qui sera avec moi sur France 2 et sur ma chaîne Twitch vendredi soir pour le Téléthon Gaming. Voilà. Il est en train de ranger ses affaires. Je l'aime trop. Je suis trop content de faire ça avec lui. Red, à tout à l'heure, midi dans une heure, pour MVP. À tout de suite.
C'est Nike. Moi, je le trouve magnifique, frère. C'est juste que là, il est transparent, tu vois l'étiquette, mais tu vois, il est comme ça. Nike Tech, je sais pas quoi. Il est magnifique. Non, non, lui, frère. Lui, il envoie. Ensuite, j'ai quoi? Un peu l'esprit bûcheron que je disais là. Oh Samuel, salut les potes, ça va ou quoi? Merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup pour le raid. Je vous explique un petit peu le contexte, juste on discutait, je faisais mon petit chocolat d'ailleurs que je vais remettre à chauffer je pense, et encore merci Samuel. Et là on discutait un petit peu vêtements, donc je vous faisais un petit haul. Notez là sur 10. Maintenant, on fera ça, comme ça, c'est plus simple. Petite veste, là, Jules. Un peu esprit bûcheron. Non, balade du dimanche, en famille après le...